everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss, and I
Ok, on arrive officiellement dans genre 30 secondes. A tout de suite. Le temps de quelques secondes de... de musique douce. A tout de suite. C'est mon morceau préféré en ce moment. Profitez parce qu'après ça va partir très vite. En fait, on va tryharder l'actu. Ça va être énorme. Profitez du calme avant la tempête. Don't let your worries weigh you down. Attention, on va y aller. Vous êtes prêts ? Oh ! Et maintenant, je vais vous réveiller. Parce que ben, j'ai un peu traîné ce matin, il y avait un peu trop d'articles intéressants dans les journaux, ça arrive. J'ai envie de tout vous lire, et le problème c'est qu'on a une durée limitée, parce que journée 2, rendez-vous, 11h30, j'ai un rendez-vous, j'ai une interview, midi, j'ai un rendez-vous avec nos amis de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui sont partenaires maintenant de l'Hebdo Étienne. Et ensuite, à 16h30 et 17h, j'ai deux rendez-vous secrets, avec des gens, pour parler de Twitch. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, voilà, beaucoup de rendez-vous. Donc, on a 2h15 ensemble. Donc, on va aller sur les chapeaux de roue de l'info. On va tryharder l'actu ce matin parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, des actus intéressantes et des articles bien faits. Ouais, exactement, Arwen Say. Ils sont chiants, ces journalistes qui font trop de bons papiers. Exactement. On a marre de cette presse de qualité. Samuel Vimer, merci beaucoup pour le 7e mois d'abonnement. Ad Lavigne, merci pour ce soutien. Rayman, pour Labo. Azu Gamer, je te remercie déjà. Merci Mumured pour. Merci beaucoup. Ce message me touche, Mumu. Merci pour le 5e mois d'abonnement. Voilà, on va speedrun l'actu ce matin. Ingénieux, premier live avec vous. Bah, t'es bien tombé parce que ça va dépoter ce matin. Ça va être énorme, tu ne vas rien comprendre. D'habitude, on est un peu plus tranquille. Voilà, mais là, on va vraiment tout donner. En vrai, je me suis dit, tiens, je vais leur enlever une ou deux infos, ni vu ni connu. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas. Voilà. On pourrait passer en vrai 3 heures sur chacun des thèmes qu'on va aborder ce matin. Autant dire qu'on va être sur un train d'enfer. Je vous salue, je vois plein de petits messages de bonne humeur, de sourire, d'amour, bien sûr, et puis de soucis aussi, puisque la vie est ainsi faite que parfois il y a des jours avec, il y a des jours sans. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. J'ai vu sur Twitter il y a quelques heures là, un message d'une jeune médecin qui avait pris l'habitude une fois tous les 4 mois, attendez, de voir un jeune homme qui est quadriplégique pour des injections intramusculaires. Enfin, donc je pense que c'est pas un super super joli moment pour le jeune homme, et qui donc pour détendre l'atmosphère met des lives de l'ami Rayou Étoile de la nuit de la culture, voilà, pour détendre un peu le, voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai vu qu'en plus Étoile lui a envoyé un petit message, je trouve ça charmant. Voilà, je vais prendre contact avec ce médecin d'ailleurs pour voir si on peut pas faire un petit truc avec Rayou. Voilà. Bon, ça, ouais. Bah voyez, ouais. Quand je dis j'ai des journées avec, des journées sans. Hello, la journée commence mal pour moi. Me dit Épolisson. Donc ce live va me faire du bien. On est aussi là pour ça. Ouais, exactement. J'ai plein de jolis projets pour vous là. Sur Twitch, voilà, avec le retour prochain des rencontres Étienne. J'ai vraiment des chouettes envie d'inviter. Voilà, la rencontre Étienne, c'est un format qui n'a pas une régularité fixe, puisque c'est un peu des coups de cœur. Je n'invite à la maison que des gens que j'aime bien. Et là, j'ai des envies d'inviter sur des trucs d'actu, là. Ouais, je vous en dirai plus bientôt. Voilà. Bon, vous savez quoi, on va commencer tout de suite le sommaire. Ouais, je sais, c'est bizarre. D'habitude, on papote au moins 30 minutes pour se dire bonjour. C'est un des attraits et intérêts et trucs sympas de Twitch. Merci Dr Vanel pour le 22e mois d'abonnement consécutif. Mais il y a trop de choses ce matin. Donc voilà, alors est-ce que vous êtes OK? Tant pis pour ceux qui seront en retard et qui savent qu'en général, ça commence sérieusement qu'au bout d'une demi-heure. Est-ce que vous êtes OK là pour un sommaire? Maintenant, tout de suite, après 10 minutes 35 de live, dont 7 minutes de musique, quoi. Folie, folie. Ça déchire le cœur, je sais. Mais j'ai envie de dire, sur certaines chaînes d'info, ils disent prime à l'info, priorité au direct. Hein? Genre, vous êtes sur une chaîne info, le plus important, c'est l'info. Waouh, c'est dingue. Vous êtes sur une chaîne de télévision en direct, priorité au direct. Waouh. Chouette concept. Pardon, c'est pas sympa de se moquer. Moi aussi, je vais faire ça. Voilà. C'est quoi ce truc? Enfin bon, Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour un petit sommaire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, sachez qu'ici, on lit les journaux, la presse écrite, on trouve que c'est une source d'information de qualité. Voilà, les journaux nationaux qui paraissent le matin, enfin certains paraissent l'après-midi d'ailleurs. Comme Le Monde, on va commencer par feuilleter Le Monde un instant. Et on s'informe auprès de ces sources au pluriel de qualité, puisqu'on multiplie les sources pour justement avoir différents regards sur l'actualité, avec des lignes éditoriales, des sensibilités de rédaction un petit peu différentes. Et puis les lignes éditoriales, les regards, les sensibilités, elles sont ici aussi dans le chat, parce que vous me donnez votre avis et on arrive à un résultat assez intéressant, assez éclairé sur l'actualité, plein de points de vue qui s'expriment. Je dis cool, j'appelle ça l'info augmentée. Petite Malouine en sucre, non seulement tu as un magnifique pseudo, mais je te remercie aussi pour ce 18e mois d'abonnement. C'est parti donc pour le sommaire, on est des malades. Alors, je parlais du Monde à l'instant, dans Le Monde, tac 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 tac, il est où l'article du Monde, parce que j'ai aussi ceux du début de semaine. Hop là, la planification écologique, les mesures annoncées par le président Macron. Ceux qui suivent cette revue de presse depuis le début de semaine se disent, hey, papy, tu nous en as parlé lundi, tu nous en as parlé mardi aussi, des annonces du président Macron concernant la planification écologique. Ouais, mais je pensais que c'était intéressant d'y revenir avec le papier du Monde sur ce sujet pour bien comprendre la pensée écologique, la doctrine environnementale, s'il y en a une d'ailleurs, du président Macron sur le sujet. Comme ça, clac, on clôt le débat là-dessus, en tout cas. Harcèlement scolaire, vous allez me dire, dites donc sa main. T'en as pas un petit peu marre de nous parler du harcèlement scolaire quasiment tous les jours? Non, parce que justement, voilà, enfin, la parole se libère sur cette question. On en parle de plus en plus du harcèlement à l'école, voilà, et il y a une prise de conscience au niveau de la société, au niveau des politiques, au niveau des médias qui vous en parlent de plus en plus. Là, il y a des annonces qui sont attendues aujourd'hui, d'ailleurs, par le gouvernement. Voilà, on verra ce qu'il y aura dans ces annonces. On en parlera sûrement demain. Il y a un dossier dans Libération, des pistes pour agir. Je vous lirai ça. Il y a... Donc ça, c'est Libé, ouais, qui est bien, un dossier qui est bien fait. Et puis, il y a un petit article, un éditorial dans Les Échos, là-dessus. Intéressant parce qu'il nous dit qu'en fait, quelque part, le harcèlement scolaire, eh bien, c'est le nouveau MeToo. Alors, vous allez me dire, quel est le lien? Pépin le Bref du terroir, merci pour ton prime. En fait, c'est parce que, comme pour MeToo, il y a quelques années, eh bien, la parole s'est libérée sur cette question. Moi, je dis yes, parfois, dans l'actu, il y a des bonnes nouvelles, on va en parler. Ça, c'est un sujet, j'ai hésité à vous en parler parce qu'on manque un peu de temps ce matin, puis je me suis dit quand même, c'est quand même un sujet. La pornocriminalité, c'est le terme évoqué par Le Figaro, pour parler de ce rapport, un rapport du Haut Conseil à l'égalité, donc on est en France, qui révèle quoi? Qui révèle l'ultra-violence inhérente au milieu de la pornographie, l'impunité dont bénéficie cette industrie, ultra-violence essentiellement vis-à-vis des femmes d'ailleurs, hein. L'instance appelle à bloquer systématiquement les contenus illicites. Alors on va rentrer dans le grand débat de mais comment arriver à bloquer efficacement un contenu illicite sur Internet et notamment pour les mineurs. Voilà. Donc là aussi c'est un sujet, on a l'impression de décoper un bateau qui coule avec un gobelet. Et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais je pense qu'il faut parler de ce sujet également. Voilà. Ah, peut-être, il y a ce mail de tout qui me dit qu'il y a peut-être un prochain cache investigation à ce sujet bientôt. Eh bien, tant mieux. Cosmic Babar, bon chantier à toi. Donc, le dossier dans Le Figaro, là-dessus, avec un petit éclairage sur l'éducation sexuelle à l'école aussi, parce que c'est un sujet polémique. D'abord, il y a une loi qui prévoit des cours d'éducation. Pas la sexualité, hein. Il ne s'agit pas d'expliquer comment on fait l'amour, c'est pas tant ça, c'est plutôt de prévenir, hein. Et puis de parler de mettre en garde les plus jeunes, c'est quelque chose de nécessaire. Je pense que c'est un travail qui doit se faire de concert entre les familles et l'école, voilà. Sauf qu'il y a des parents qui sont pas trop chauds là-dessus, et puis de toute façon ces cours d'éducation sexuelle à l'école, ils sont prévus dans la loi, mais ils sont très peu appliqués dans les écoles. On en parlera. Un dossier dans l'Humanité très intéressant sur un rapport qui vient d'être remis par deux élus. Est-ce que ce sont des députés ou des sénateurs? Je cherche la précision. On verra bien. Un communiste et un centriste sur la fiscalité du patrimoine. Que dit, tenez, le voici, que dit ce rapport? Eh bien que de plus en plus en France, on est dans une société non pas de mérite, mais de rentier. Où la part de l'héritage dans la richesse de ceux qui sont riches est de plus en plus importante. Alors, ça a toujours existé, mais en fait, ça, c'est de plus en plus important. Est-ce qu'on est dans une société de rentiers? Quels sont les chiffres qui le démontrent? Voilà, c'est pas l'UMA qui le dit, hein, c'est ce rapport parlementaire. Est-ce qu'il faut lutter contre ce phénomène? Quelles sont les solutions au niveau fiscal? Hop, dossier dans l'humanité. On parlera donc d'argent. On parlera aussi beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle ce matin, parce que d'abord, il y a un édito dans La Croix passionnant sur le fait que ChatGPT vient d'annoncer avoir déclaré son robot conversationnel maintenant de la parole et de la vision. Voilà, donc ça donne des froids dans le... On dit ça, froid dans le dos, non? Enfin, des frissons en tout cas à certains qui se disent, mais jusqu'où ça ira? La Croix qui imagine ChatGPT bientôt raconter des histoires à nos enfants le soir, les border, etc. Il y a toujours justement un article dans Les Échos cette fois sur le doublage automatisé qui commence à être utilisé notamment par Spotify, par YouTube pour doubler. C'est plus traduire les petits sous-titres en bas de l'écran. Donc c'est doubler, vous savez, avec les lèvres qui s'adaptent à la langue traduite. Doubler notamment des vidéos pour YouTube. Pour en toucher le plus de monde possible à travers la planète et donc faire encore plus de sous. Alors évidemment, doublage automatisé pour les gens dont le métier est de traduire, là aussi ça crée quelques frissons. IA encore, voilà, belle actu IA, tant mieux d'ailleurs parce que vendredi dans l'hebdo Étienne, je vais vous poster, faut que je travaille sur le visuel, faut que je vous poste le visuel de l'hebdo Étienne de vendredi. Parmi nos quatre invités de vendredi, je vous le dis rapidement, il y a Arnaud de Samer qui revient, il y a Valérie Damido qui revient, il y a Laetitia Krupa qui est une journaliste poétique qui vient pour la première fois, et il y a Defend Intelligence, vous savez, le streamer, l'ingénieur qui justement est très branché IA, donc on en parlera sûrement avec lui vendredi. Et là, il y a un film qui sort qui s'appelle The Creator, d'un réalisateur qui a une très bonne réputation, qui s'appelle Gareth Edwards, qui est justement une réflexion sur l'IA et les robots. Le Parisien dit que c'est formidable, Libération dit que c'est super. On ira voir une bande-annonce ensemble, sachant que je ne l'ai pas vu encore la bande-annonce, donc ce sera une petite surprise. Et puis, pour terminer, vous allez voir, ce matin, vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé le sommaire tout de suite. Énormément de choses à lire. Ouais, c'est celui qui a fait Rogue One, exactement, du côté de Star Wars. Un dossier passionnant dans Le Monde, cette fois, sur le sport médicament. On le sait, aujourd'hui, c'est prouvé, le sport, l'activité physique, c'est excellent pour éviter de tomber malade, pour guérir plus vite quand on est malade, pour mieux supporter les traitements quand on est malade. Voilà, donc c'est topissime. Ça, c'est reconnu, c'est expliqué scientifiquement. Sauf que, voilà, après, il faut mettre ça en pratique. Et on a encore trop, dans un pays comme la France, mais c'est vrai dans le monde entier, trop de personnes sédentaires, en fait. Alors, non seulement le sport permet, de booster sa santé, en quelque sorte, mais ne pas faire de sport, c'est abîmer sa santé. Voilà. Donc il faut un petit peu d'activité, on va le rappeler ça. Voilà. Mon problème ce matin, c'est qu'il y a trop de choses. Vous avez vu tous ces sujets? En vrai, chacun de ces sujets, on peut y passer 3 heures. Donc j'ai 7-8 gros dossiers à évoquer ce matin. En 2 heures, il nous reste 2 heures là. 2 heures, ouais, j'ai une interview à 11h30. Il nous reste 2 heures. Il nous reste 1h45. Aïe, 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 aïe. Donc voilà pourquoi on a c'est du jamais vu, hein. Sur cette chaîne, normalement, on commence à faire le sommaire à 30 minutes de stream. Là, à 20 minutes de stream, on s'est dit bonjour et on a fait le sommaire. Voilà. On parlait de sport, je suis à la limite du claquage. Je me suis claqué un mollet d'ailleurs récemment parce que j'ai voulu recourir trop vite. Et on est à la limite du claquage. Voilà. On va respirer 5 secondes. Mais voilà, on a vraiment un très 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 beau menu. Hein, vous en pensez quoi? Pas mal quand même. Hein. Ah, on me dit que le cash investigation, c'est demain soir. Ah, on essaiera de faire un petit horoscope diesel, mais ça va être chaud. Hein. Attends, il y a un cash investigation sur le porno. Je tape d'un doigt. Et je tape d'un doigt, tel, comme les policiers, sur leur machine. Comment vous savez... Là, vous vous dites, mais comment il sait que les policiers tapent avec un doigt? Est-ce qu'il a beaucoup eu affaire à la police, Samuel Etienne? Vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. Hop, hop. Cache investigation pornographie. Ah, mais oui! Pardon. Mais vous avez raison, vous êtes trop fort. Et bim, bim. Cache investigation porno. Un business impitoyable. Waouh! De plus en plus de mineurs visitent des sites porno dont les contenus sont parfois très violents. C'est exactement le sujet qui est évoqué par le Figaro. Qui se cache derrière ces plateformes? Comment réussissent-elles à engranger des centaines de millions d'euros? Et comment protéger les enfants? Eh ben, c'est très bien ça. En vrai, putain, si je pouvais react ce genre de contenu, ce serait top, quoi. Waouh. Eh, on ira revoir. Putain, je suis pas surpris qu'il y ait Sylvie Brossolette qui soit invitée de ça. Il y a Nikita Bellucci aussi, l'ancienne actrice. Ça a l'air super en vrai. Hein. Ouais. Ok. Bon, alors le problème c'est que. Trop de choses. Ouais. Comment? Me dit Diesel. Des adolescents regardent du porno. Ouais, je sais, ouais. Ne mets pas la bande annonce, je t'en supplie. Oh bah, de toute façon les images sont floutées je pense hein. De toute façon pas besoin de la bande annonce pour comprendre qu'il y a un problème sur ce sujet. Ouais, à propos de Burger, j'étais assez fier de mon petit tweet d'hier soir avec mon amoureuse. On s'est fait un petit dîner amoureux à la maison là, voilà, on mange très mal hein. Chez Sam on est assez junk food, voilà. C'est pour ça qu'on essaie de faire du sport d'ailleurs, c'est pour compenser un petit peu notre alimentation qui ne va pas du tout. Et donc, j'ai tweeté ceci hier soir. Un jour, moi aussi, j'aurai mon burger. On s'est fait un petit Burger King. Bon, j'en parle d'autant plus facilement que je n'ai pas de lien capitalistique avec Burger King. Ceci n'est pas une opération commerciale. Et donc, oui, j'avais eu écho sur les réseaux du fait que Zen, l'excellente émission avec Max Biaggi et Grimm, avait fait un partenariat avec Burger King. Au début, je pensais que c'était une blague. Et puis non, bah, on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de créateurs de contenu qui font des partenariats avec des chaînes de hamburgers. Voilà. Et du coup, je dis, bah, et moi alors? Et moi? Et moi? Et quand quoi? Voilà. Donc j'ai imaginé le jour où ce ne serait pas un Zen Burger, mais un Sam Burger. Oui, j'ai détourné moi-même avec un petit, comment dire, un marqueur. Ouais, c'est assez bien fait et on voit vraiment bien que le Sam s'intègre bien dans la construction du logo. Là, voilà, c'est vraiment affreux. Voilà. Voilà. Hein, ouais, en vrai, ce ne sera pas de la gueule. Tu mettrais quoi dans le tien, me dit Naboy, bonne question. Il faudrait. Alors j'ai trouvé. Alors sans critiquer, j'ai bien aimé le Zen Burger avec c'était du poulet. Il y a de la tomate. Ça c'était pour le côté original, tomate fraîche. C'était pas mal. Fromage. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas de sauce. Peut-être volontairement, peut-être pour que ce soit un peu moins gras, je sais pas. Or là, ouais. Et donc du coup, ça avait un petit côté sec qui m'a pas dérangé. Mais du coup le mien je pense qu'il serait, en vrai je pense qu'il serait végé le mien. Ah, il y a une sauce. Ah bah j'avais pas, je me la suis fait. Ah, je me la suis, ouais. Il y a Killer de, c'est quoi ce pseudo bordel, qui me dit que je me la suis fait scam la sauce. Ah putain, j'ai pas eu la sauce. Ah, il y avait pas de sauce. Ah, je me suis fait carotter ma sauce. Ok, d'accord. Ah ok. Voilà. Donc, alors moi, le mien, il serait végé. Mais après, est-ce qu'il y a un marché? Tu vois, il y a Lee Yonggi qui dit végé pour un burger, tu vends pas du rêve, quoi. Putain, il faut que je le reprenne. Ouais, alors j'ai vu qu'il existait en version végé, le Zen, mais je voulais goûter la version de base. Je me suis dit que c'est celle que les gens allaient le plus goûter. Donc, je suis un peu sacrifié. Moi, je mange pas trop de viande. Même si je suis pas full végétarien. Et donc, j'ai voulu tester la version normale, alors qu'à la base, j'aurais plutôt pris, moi, le végé. Mais j'ai voulu goûter celui-ci, je me suis un peu sacrifié sur l'autel de la formation, vous voyez, genre quoi. Mais après, j'essaierai le VG, quoi. Ah, moi, j'ai découvert là, récemment, pas très loin de la maison, un burger VG, là. Une dinguerie, quoi. Il y en a qui sont pas bons, hein. Il y en a qui sont pas bons, voilà. Donc le mien, Tiens, regarde, il y a AEG. Il y a le dire qui me dit le VG Louisiane de Burger King, puisqu'on a ces BK là, est vraiment surprenant. Ouais, je vais essayer ça. Voilà. Alors VG, je dirais VG, mais un bon VG quoi. Avec une petite sauce sympa, puis je dirais aux gens de ne pas oublier de la mettre. Et puis un petit peu de fromage, c'est la vie quoi. Un petit pain qui va bien, ouais. Ouais, on l'appellerait le. Comment on l'appellerait? Comment on l'appellerait? Le. Comment on l'appellerait? Le burger Étienne. Oh, pardon. Ok, Jojo, ok. AEG, c'est un tag. Ok. Alors, c'est parti pour les noms. On va baptiser cet hamburger. Le VG Étienne. Ça me régale. Oh, quand je chasse. Alors, le VG Dream. Ça me régale. Lindori est aussi sur cette idée. Ça me régale. Ah, vous êtes plusieurs à avoir cette idée de ça me régale. La nourriture Étienne. Ça me donne faim. L'Anka Étienne. Le burger Étienne. Le VG Étienne. Oui, c'est beau. Le VG Étienne. Oui. Le Mac Chibre. Peur que ce soit pas très digeste, Zervosna. Merci beaucoup. Le bon Sam. Haritain, le Sam Gur, le Burger Chibre, la Graisse Étienne, le Sam Donne Faim, le Burger Champion, le Tienne Burger, le Étienne de la Mort, le S Hamburger, le Sam Cal, joli, le Sam Remplit la Panse, le Sam Régal. Oh, je me régale. Le Sam Mange Mal. Il y a Pim Potroche qui dit t'aurais pu faire un sourire sur la photo. Je souris là. Là c'est mon sourire maximum là. L'obésité Étienne, etc. Quoi. Ça m'étonne qu'il soit si bon. Ça me fait grossir. Le Sam Rockwell. Ça tue. Ça tue Sam R. Ça tue sa mère. Oh, j'adore, vous me régalez. Voilà, donc j'étais assez content de mon petit tweet d'hier soir. Plus je raconte de conneries, plus je suis heureux. Bon, on y va les amis, parce qu'on a du pain sur la planche, plutôt de l'actu sur la planche. Coréal, merci pour le 5e mois d'abonnement. Réal à taupe, merci pour le 24e mois d'abonnement. Andrea Léo 86, merci pour le 11e mois d'abonnement. Vous êtes en train de payer le BK végétarien que je vais me taper ce soir. Vous êtes formidables. Allez, 28 minutes 56 secondes de stream. D'habitude, on commence seulement le sommaire et on est tellement chaud ce matin qu'on va commencer cette revue de presse directe. Tant pis pour les retardataires, vous l'aurez en replay gratuitement sur YouTube et également sur Twitch si vous êtes abonné. On commence par Le Monde. Parce qu'à un moment, moi, sur un sujet aussi important que l'environnement, l'écologie, je me suis dit, moi j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a dans la tête du président Macron là-dessus. Pour employer des termes un petit peu chicos, quelle est la philosophie environnementale, la doctrine écologique du président Macron, s'il y en a une, à la faveur des annonces du chef de l'État sur ce qu'il appelle la transition écologique. Et ben on va essayer de cerner un petit peu cette pensée, ce projet, car ceci est notre projet, je suis assez fier de moi. Planification écologique, la doctrine Macron, c'est quand même la dernière édition du Monde. Repoussant toute idée de contrainte, c'est important, ou de changement sociétaux, c'est là où il est critiqué par notamment les écologistes, le chef de l'État a donc dessiné lundi les contours de son écologie à la française. N'abordant que brièvement les questions relatives à l'aérien et à l'agriculture, il a en revanche insisté sur les aides dans les domaines du logement et du transport. Ce discours de la méthode, dit l'Élysée, détaille comment la France parviendra d'ici à 2030 à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre. Cette vision mariant idéal européen, souveraineté industrielle et justice sociale n'a pas convaincu les oppositions, notamment, je vous le disais, l'opposition écologiste. Voici donc dans Le Monde les contours de la doctrine Macron. C'est parti. Lundi, donc, en conclusion d'un conseil de planification écologique, le président a pris la parole pour présenter sa vision d'une écologie à la française. Pendant une trentaine de minutes, il a dévoilé un peu plus sa philosophie de la transition écologique, une doctrine où toute idée de contrainte, on ne contraint pas, on n'oblige pas, pas trop, un exécutif un peu traumatisé par les gilets jaunes, souvenez-vous, la taxe carbone, des mois de soulèvement. Donc, ok, faut pas trop obliger, parce que après ça énerve. Donc, toute idée de contrainte ou de changements sociétaux est repoussée. Je cite, nous avons décidé d'encourager nos compatriotes, pas d'obliger, sans interdiction, mais en les incitant à changer au plus vite, a-t-il dit sur le sujet, par exemple, des chaudières à gaz, parce que quand je vous ai dit en début de semaine, bon, les chaudières à gaz ne vont pas être interdites, contrairement aux chaudières au fioul, certains m'avaient dit, ah bah si, moi j'avais vu que le gouvernement avait annoncé que l'installation de nouvelles chaudières à gaz allait être interdite. Oui, Elisabeth Borne avait évoqué cette interdiction à partir de 2026, mais le président Macron lui a dit non, pas d'interdiction des chaudières à gaz, incitation seulement à passer à autre chose, notamment aux pompes à chaleur. Des sujets comme la limitation de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute, la consommation de viande ou l'usage de l'avion n'ont même pas été abordés, alors que la question de la vitesse sur les routes en termes d'émissions de CO2, la question de l'avion en termes de CO2, la question de la consommation de viande en termes de CO2, les gens qui connaissent un peu ces sujets savent que ce sont des leviers importants pour réduire nos émissions à titre individuel de CO2, le chef de l'État n'en a pas parlé. Selon plusieurs de ses conseillers, le président est conscient que les modes de vie seront à terme amenés à évoluer, mais il ne veut pas que ces changements se fassent dans des ruptures traumatisées, qu'est-ce que je disais, par le mouvement des gilets jaunes. Monsieur Macron aurait également été récemment marqué de voir, ça c'est intéressant aussi, l'extrême droite allemande monter dans les sondages en menant la bataille contre l'interdiction des chaudières à gaz et au fioul. On n'énerve pas les Français, c'est un peu la philosophie, quoi. Alors du coup, lundi, il a plutôt insisté sur les aides, les accompagnements qu'il veut mettre en place dans les domaines du logement, des transports, deux sujets de la vie quotidienne des Français. La rénovation thermique des bâtiments doit se doubler d'une politique de justice et d'accessibilité, a-t-il dit. Il nous faudra donc accompagner les ménages les plus modestes, on ne sait pas encore comment. Il a aussi annoncé ce fameux leasing permettant l'accès à une voiture électrique pour 100 € par mois, une offre réservée aux plus modestes. Ça fait un moment qu'on en parle, a priori ça va être précisé, annoncé très bientôt en novembre. Autre priorité, le développement d'infrastructures avec les 13 projets de RER métropolitains dans lesquels l'État va investir 700 millions d'euros. Tout ça a le mérite de mettre la transition en haut de l'agenda avec des montants d'investissement significatifs. Qui parle, c'est Mathieu Ozano, qui est directeur d'un think tank qui s'appelle The Shift Project. Mais, dit ce monsieur, donc c'est cool qu'on mette la transition en haut de l'agenda, mais nous sommes sur des réponses presque exclusivement techniques, financières, alors qu'il faudrait impulser dès maintenant des changements profonds de mode de vie, d'organisation économique. Vous savez, c'est ce que disent notamment les écologistes. Je vais à la fin du dossier, qui est beaucoup plus important, bien sûr, hein, mais si ça vous intéresse, c'est à lire dans Le Monde, et je le trouve bien fait, si vous voulez savoir quelle est la doctrine actuelle du pouvoir en matière d'écologie. Le Monde le résume très bien. Avec ce mélange d'un refus des interdictions et d'une ambition assumée pour une croissance verte teintée d'un technosolutionnisme sur l'hydrogène ou le captage du carbone, qui ont été cités lundi, le président Macron dessine sa vision d'une écologie positive, dit-il, de progrès, dit-il. Deux termes en vogue chez ses partisans depuis 2017, une façon de se tenir sur un fil de crête entre une écologie du déni et une écologie de la cure, incarnée selon l'Élysée par l'extrême droite et une partie de la gauche. Voilà. Un espèce de en même temps, un espèce de nini, un espèce de juste milieu, quoi. Comme le président Macron essaie de le faire parfois, c'est un petit peu ça. Sa doctrine politique, le fameux en même temps. Coréal, merci beaucoup pour le très gentil cinquième mois d'abonnement et le gentil message. Relatope, merci pour cette deuxième année. Je t'ai remercié tout à l'heure, je crois déjà. Je sais plus, non, je crois pas. Andrea, merci beaucoup pour ce 11e mois d'abonnement. Qu'est-ce que vous en pensez? La croissance ne peut pas être verte, dit Walt McCloud. Hein, c'est comme l'eau qui ne peut pas être sèche. Alors, sur les investissements, donc on parle de, pour le RER, là on a annoncé, je sais plus moi, 700 ou 800 millions d'euros, je sais plus. 700 millions d'euros, et il y a d'autres thébans qui me rappellent que pour info, le RER bordelais à lui seul va coûter 640 millions d'euros, donc le compte n'y est pas, quoi. Joli, joli. C'est facile à dire, on contraint pas, dit Marie Marmotte, mais quand les gens mourront parce qu'il fera 40 degrés pendant 2 mois l'été, parce qu'on sait que les fortes chaleurs qui vont se multiplier vont effectivement avoir des incidences sur la santé, hein, et va tuer des gens en France, hein, les plus fragiles. On le sait, ça. Hein. Il faudra bien prendre de vraies décisions, me dit Marie. Après, me dit c'est bien beau de vouloir contraindre ou inciter, mais perso, si on me dit qu'il faut que je change ma chaudière et que je refasse l'isolation de mon appart, ben en fait, même avec les aides, j'ai pas assez de thunes. Hein ? Merci Sky News, merci beaucoup pour ce soutien, merci pour le 14e mois. Mais bien sûr, Moumoumeu dit, mais il y a encore des gens pour croire qu'il y a ne serait-ce qu'un infime espoir pour limiter le réchauffement climatique. Tous les scientifiques le disent, hein. Tous les rapports du GIEC le disent, les invités que j'ai reçus notamment en juin sur ce sujet le disent très très clairement. Il ne faut pas baisser les bras, chaque action individuelle aura des effets, quoi. On sait qu'il est quasiment trop tard pour empêcher le réchauffement climatique, mais on peut le limiter, voilà. Et même 0,1 de réchauffement évité, eh bien, ce sera des conséquences négatives en moins, voilà. Donc oui, bien sûr. Parce que se dire que c'est trop tard, se dire qu'on n'y arrivera pas, se dire, mais comme le président Macron d'ailleurs l'a dit, c'était récemment, c'est bien dommage, que ah oui, mais la France ne compte que pour 1% des émissions de CO2 au niveau mondial. 1% vu la population de la France, c'est déjà beaucoup quand même, hein. Et puis il faut voir le bilan historique de la contribution de notre pays au réchauffement climatique dans les décennies d'avant. Bref, si on se dit ça, personne ne fait plus rien, effectivement on va dans le mur. Donc effectivement, il faut tous, individus, citoyens, entreprise, État, pays, tous, à un moment, faire un effort, quoi. Comme le dit Ilfries, baisser les bras, c'est un comportement suicidaire. Comme le dit Charisme Équipe, vous le dites beaucoup plus clairement que moi, on ne peut pas inverser la tendance, c'est sûr, mais on peut au moins essayer de la limiter. C'est un des sujets les plus essentiels qui se posent à nous actuellement. Voilà. Bon, on a ce débat quasiment tous les jours. On l'aura de nouveau. Jean Marcidrac pour le Prime. Je vais vite ce matin et je m'en excuse, il y a trop d'actu intéressante. Le harcèlement scolaire, je voulais vous en reparler puisque, et on en reparlera demain, puisqu'on attend aujourd'hui des annonces du gouvernement sur le harcèlement scolaire. Prise en charge des harceleurs à l'école. Implication des familles, rôle de la justice. On attend donc le plan interministériel qui va être dévoilé aujourd'hui. Je vous en parlerai demain matin, bien sûr. Ah, c'est pas demain que je suis à Montélimar. Demain, je passe la journée à Montélimar pour un festival cinéma à destination des plus jeunes. J'aime bien rencontrer la jeune génération pour parler, du coup on parlera de beaucoup d'informations et Twitch. Je passe la journée à Montélimar, je pars à 7h du mat, je reviens très très tard. Ouais. Donc je mangerai du nougat, certes, mais j'ai vécu un an à Montélimar. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs, pour le breton que je suis. Et du coup, oui, j'ai un tatouage sur le ventre. J'ai un tatouage partout. Et donc je pourrais pas faire de revue de presse demain. Voilà. Mais je lirai les journaux quand même. Donc je ne pourrai pas vous en parler demain, mais je ferai une revue de presse vendredi pour vous en parler. Voilà. Bonjour les jeunes. Exactement. Hello fellow kids. C'est un peu mon truc. Donc en attendant les annonces, eh bien, Libération s'est penchée sur le sujet. Sujet majeur, dit Paul Quignot dans son édito. Elisabeth Borne va donc présenter aujourd'hui un plan ministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est une très bonne nouvelle, dit Libération, qui n'est pas un journal, qui est super tendre avec le gouvernement. Vous allez me dire tendre comme du nougat, bien sûr. Mais Libé dit, ouais, c'est une très bonne nouvelle. Il faut bien sûr attendre de connaître le détail des mesures, hein, et les moyens qui iront avec. Mais le sujet est d'une telle importance que tous les efforts en la matière sont bienvenus. Car il y a urgence, nous dit Paul Quignot dans Libé. Car si la France a commencé il y a une dizaine d'années à prendre le sujet au sérieux, elle reste globalement à la traîne dans la mise en place de dispositifs de prévention. Les profs doivent... alors. La philosophie de Libé là-dessus, c'est que je vois des messages, hein, sur le harcèlement parce que certains vous vous êtes ou vous avez été touché. Je vais en lire quelques-uns, c'est important d'en parler. La philosophie de Libé là-dessus, c'est un petit peu comme sur la question environnementale, tout le monde doit agir. C'est pas à l'éducation nationale de régler le problème. C'est pas aux parents de régler le problème. C'est pas à la société dans son ensemble de régler le problème. C'est à tout le monde, en fait, ensemble, de lutter contre le phénomène. Les profs, dit Libé, doivent évidemment être en première ligne. On sait malheureusement que les assistantes sociales, les infirmières, les surveillants, pour ne citer que, sont trop peu nombreux aujourd'hui pour jouer le rôle de lanceurs d'alerte. Les progrès qui pourraient être enregistrés devront aussi beaucoup à l'implication des parents, dit Libé. Il faut parler avec ses enfants dessus pour détecter les petits signes qui indiquent qu'un enfant peut être harcelé ou harceleur. La police, la justice doivent elles aussi participer, écrit Libé, à la prise au sérieux de la lutte contre ce phénomène. Il n'y a, pour lutter contre le harcèlement scolaire, pas de recette miracle, dit Libé, mais il existe des recettes. La première est de mettre dans la tête de tous les acteurs que c'est un sujet majeur et on est en train de progresser là-dessus en France. Un sujet qui concerne beaucoup trop de jeunes qui pourrit parfois leur vie quand ils ne la détruisent pas. Shoya écrit dans le chat, moi qui me suis fait harceler, je suis passé devant ma CPE en pleurant car j'étais mal. On m'a dit que c'était de ma faute, voilà ce qui ne va pas en France. Et que si la personne qui m'a harcelé veut porter plainte, elle peut, alors que c'était moi la victime, je ne voulais plus aller à l'école, on m'a dit que c'était ma faute. Il y a Vraël qui est un petit peu pessimiste hein, sur l'engagement des parents. Je suis prof, vraiment certains parents, pour espérer d'eux qu'ils comprennent ça, ça va être chaud, quoi, me dis-tu. Voilà. Yacine nous dit, mes parents avaient carrément accéléré leur projet de construction de maison pour déménager, me faire changer de collège à l'époque, ce qui n'était pas évident en Île-de-France en plus. Candy, je me faisais harceler il y a 10 ans environ puisque j'ai 20 ans et très peu de gens y faisaient attention puisque c'était seulement entre guillemets des remarques répétées tous les jours sur mon poids, c'est du harcèlement ça, sur mon comportement, c'est du harcèlement ça, et seulement une atteinte physique une seule fois et ça a eu beaucoup de conséquences pour moi. On va écouter le témoignage dans un instant de Rémi Buisine, le journaliste de Brut que j'aime beaucoup, qui était invité de l'Hebdo Étienne. Vendredi on a abordé ce sujet et Rémi à un moment s'est confié à raconter comment lui aussi avait été victime de harcèlement à l'école et comment aujourd'hui adulte il en paie encore le prix. Voilà, c'est tous les témoignages que je lis vont dans ce sens d'une prise en considération insuffisante du harcèlement, de ce phénomène du harcèlement scolaire en France. Malove, harcelé quand j'étais au primaire. La direction a dit à mes parents d'aller me faire consulter un psy, car c'était forcément ma faute. Et l'enfant qui me harcelait, rien bien sûr. C'est fou, hein. Beaucoup de témoignages là. Tenez, je vais essayer de aller voir mon compte TikTok parce que du coup, j'espère que j'y ai accès là. Parce qu'en fait, là, j'ai posté l'extrait de Rémi sur TikTok. Je ne l'ai pas mis sur Twitter encore. Je suis pas sûr. Je vais peut-être parler un peu trop. Si je l'ai.
En 2002, quel ancien champion olympique de sabre devient ministre?
Excusez-moi, c'est le compte TikTok de questions pour un champion qui a posté un... C'est mignon. Un truc sur questions pour un champion. Alors, je vous montre le truc de Rémi. Pardon, ce sera en format TikTok. Hein. Je vous le cale. Voilà, c'est là. Montez un petit peu le son. Rémi Buisine, journaliste du Brut. Vendredi soir à la maison, l'Hebdo Étienne, on parle de ce sujet et Rémi, à un moment, c'était pas prévu, nous confie ceci.
À titre personnel, je l'ai vécu le harcèlement scolaire et je sais ce que ça fait, l'impact que ça peut avoir sur une vie. Et franchement, à un moment donné, il faut renverser la table dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a dû faire devant tout le monde peut-être le show pendant des semaines, d'harceler peut-être cette personne-là, peut-être d'autres, et qu'il faut montrer l'exemple, de dire bah non, ça suffit maintenant. Ça veut dire qu'il y a des gens, on parle de 700 000 à 1 million de personnes qui sont victimes chaque année de harcèlement scolaire. C'est des chiffres dramatiques. Tu as 12, 14 ans, tu te fais harceler, c'est ta confiance en toi qui est détruite. Au moment où tu construis ta personnalité, tu as des gens qui te rabaissent plus bas que terre et c'est des choses qui peuvent te suivre toute ta vie. Il y a des gens, enfin, moi je sais qu'aujourd'hui à 32 ans, j'ai encore parfois certains effets qui peuvent me remonter. J'ai souvent eu, par exemple, pendant de longues années, le sentiment de l'imposteur. Qui était lié un peu à ça, parce que pendant des années, on me disait « t'es une merde », voilà, des trucs qui sont très durs. Et donc, à un moment donné, moi, j'aurais rêvé que des flics rentrent dans la classe et le menottent et disent « et le foutent dehors ». Parce que franchement, la personne qui souffre, c'est le harcelé, les harceler, et il faut qu'on arrive à faire bouger les choses dans l'autre sens. Tu vois, par exemple, si moi, au niveau scolaire, j'ai arrêté l'école très tôt, c'était lié à ça. Tu vois, moi, j'ai arrêté les études avant le bac. Parce que moi, à l'école, c'était un fardeau, c'était dur. Et je me souviens du comportement des harceleurs, ils étaient encouragés par une foule. C'était même eux qui étaient un peu les vedettes de la classe. C'était genre, ah bah il va humilier les gars. Et puis tout le monde disait, allez, vas-y, vas-y. Moi, je me souviens de ça. Un jour où je me faisais frapper dans un bus en rentrant chez moi, et t'avais tous les autres qui étaient, allez, vas-y. Et c'était lui qui était porté en héros. Et moi, j'étais le gars qui va rentrer chez moi, personne va m'appeler. Peut-être même que je vais recevoir des messages, à l'époque c'était MSN, hein, on remonte un peu à loin, MSN Messenger, on va recevoir des messages un peu durs. Qui vont nous encore détruire notre confiance en soi. À titre personnel, je l'ai vécu, le harcèlement scolaire. Et
Rémi Buisine, journaliste de Brut, donc il le dit à un moment, il a 30 ans passé aujourd'hui, et aujourd'hui, encore, en tant qu'adulte, eh bien, il le vit dans sa chair, cette espèce de manque de confiance en lui, en fait, qui date de cette époque, c'est chaud, quoi. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Rémi. Anonyme 31 dans le chat écrit « Je suis prof, j'ai proposé à un chef au rectorat de faire un atelier de prévention contre le harcèlement au collège. » On parle de là maintenant, de notre époque. Le chef du rectorat m'a répondu « Le harcèlement, ça n'existe pas, c'est une invention des médias. » Que répondre à ça? On voit bien que il y a d'énormes progrès encore à faire en France. On attend les annonces du gouvernement aujourd'hui là-dessus. Là où je me félicite, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est en train de monter au niveau sociétal, au niveau médiatique. Jamais les médias n'avaient autant parlé de ce sujet. Voilà. Et au niveau politique, on attend donc les annonces. Penchons-nous un petit peu sur le dossier de Libération là-dessus, qui rappelle d'abord les chiffres. Ce fléau dont sont victimes 700 000 enfants chaque année en France, 700 000, c'est hypothèse basse, on parle parfois d'un million, un million d'élèves chaque année en France, chaque année. Hein. Ce qui veut dire, écrit Libération, qu'il existe au minimum deux fois plus de harceleurs. Pourquoi Libé dit ça? Parce que le harcèlement scolaire est un phénomène de groupe. Hein. Souvent, on harcèle à plusieurs. Comment l'éducation nationale gère-t-elle ses élèves harceleurs et harcelés? À l'aide du programme phare, alors ça c'est un progrès, pardon, et c'est pas encore assez, c'est pas encore mis en place dans tous les établissements, mais il y a eu un truc. Le programme phare, donc c'est un plan de prévention généralisé dans les écoles et les collèges qui a été mis en place à la rentrée 2022. C'est très récent. On en attend encore les effets, d'autant que par manque de moyens, ce n'est pas mis en place partout. Mais c'est nouveau. Ce dispositif prévoit la mise en place d'une équipe ressource de 5 adultes, donc profs, CPE, assistants d'éducation, dans chaque établissement du secondaire, 5 par circonscription dans le primaire. L'équipe a pour mission d'intervenir à la première alerte. Tu vois, il y a Miltimi qui est peut-être enseignant, enseignante, qui dit en vrai c'est pas mal la technique du programme phare, je l'ai testé sur des élèves de primaire, ça fonctionne bien. Ah, ça commence. L'équipe donc a pour mission d'intervenir à la première alerte en suivant un protocole qui préconise la méthode de la préoccupation partagée qui consiste en quoi? À recevoir chaque suspect de harcèlement, c'est-à-dire chaque élève soupçonné d'être un harceleur lors d'un entretien. Et on leur dit d'un ton courtois mais ferme, cet élève ne va pas bien, donc l'élève harcelé, comment on pourrait l'aider selon toi? C'est Jean-Pierre Belon qui est directeur du Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires et qui a adapté le dispositif suédois PICAS en France qui l'explique. C'est une approche non accusatrice de l'harceleur pour qu'il ne se braque pas et ne soit pas encore plus violent à l'égard de la victime. En gros, on essaie de le faire partie, d'intégrer l'élève harceleur dans la solution. Et c'est bien, parce que, pardon, ça choque à chaque fois que je le dis, certains d'entre vous, mais vous ne réglez pas le problème du harcèlement sans vous intéresser aussi aux élèves harceleurs en essayant non pas de les excuser jamais, mais de comprendre le pourquoi du comment, les élèves harceleurs venant parfois, et souvent même, de familles où il y a des problèmes, déficit d'attention, déficit des familles qui ont des soucis, et les élèves exprimant malheureusement ces soucis familiaux par de la violence tournée vers les autres. Il n'est pas rare non plus qu'un élève harcelé parfois devienne harceleur et inversement. Donc c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que les méchants et les gentils. Il ne s'agit pas d'excuser les harceleurs, je le répète, c'est très important, mais ils font partie du problème. Et donc il faut l'intégrer. Et parfois il faut l'écouter. Ça marche bien chez nous, se réjouit Clara Rago, qui est co-secrétaire, hop là, je suis un petit peu vite, académique SNES-FSU, un an et demi après la mise en place de l'équipe référente, donc phare, dans son collège, qui est en Meurthe-et-Moselle, à condition de réagir vite. C'est intéressant ce qu'elle dit. En une semaine, c'est réglé. Hein, sur la trentaine de cas traités, un seul n'a pas fonctionné. Je vais vous lire parce que je vois plein de messages intéressants. La méthode n'opère qu'aux prémices du harcèlement. Il faut un gros travail de sensibilisation en amont pour que les témoins signalent les faits le plus vite possible. Les témoins, ça peut être d'autres élèves, ça peut être les profs. Pourquoi ? Parce que, explique une principale de collège, si ça s'installe, après ça part sur les réseaux, ça part en cyberharcèlement et là c'est chaud. Ça devient très compliqué. Gabriel Attal, d'ailleurs le ministre de l'Éducation, envisage la confiscation systématique du téléphone portable par la justice en cas de cyberharcèlement grave. Peut-être que ça va être une des mesures annoncées aujourd'hui, on verra. Ou la possibilité d'interdire en partie l'accès aux réseaux sociaux des mineurs qui ont été mis en cause, on verra. Selon le ministère, plus de 80% des cas de harcèlement ont été résolus grâce à Phare l'an dernier. Ce chiffre est sûrement faux. Je n'y crois pas du tout. C'est le retour de 8 académies qui le dit. Ça me paraît très optimiste. Les collèges de l'INSEE et Lucas, deux élèves de 13 ans qui sont suicidés les 12 mai et 7 janvier dernier, étaient pourtant engagés dans ce programme. Donc on voit bien qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Les méta-analyses ont montré que c'est au mieux, voilà un chiffre qui me semble un peu plus raisonnable, 15% de diminution des faits, ce qui est déjà beaucoup. Corrige Éric Debarbieux, qui est un ancien délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences scolaires. D'où vient ce chiffre de 80%? Alors oui, peut-être. 80% des cas signalés et pris en main par ce programme phare dans les établissements où il est mis en place, parce qu'il y a plein d'établissements où il n'est pas mis en place. Effectivement, peut-être que 80% de ces cas qui ont été saisis, documentés, sur lesquels on a travaillé, ont été résolus. Ça montre que le programme phare, quand il est mis en place, PHARE, phare, comme un phare, fonctionne. Voilà. Mais combien de cas n'ont pas été pris en compte par ce programme phare ou parce que ça a échappé au radar de gens qui étaient censés le signaler, ou parce qu'ils n'ont pas voulu le signaler, ou simplement parce que le programme n'était pas mis en place. Voilà. Donc, je préfère me pencher sur ce chiffre qui me semble plus cohérent. Dans les établissements où le programme phare a été mis en place, eh bien, on a vu 15% de diminution des faits. Eh bien, c'est déjà pas mal. Tiens, ouais, là, j'ai un chiffre. 9 collèges sur 10, environ 2/3 des écoles sont inscrites dans ce programme phare à ce jour. Une mise en place effective qui tarde selon les territoires. Vous avez des académies qui traînent encore les pieds. Des académies, peut-être, qui pensent que le phénomène du harcèlement scolaire, c'est pas si grave, ou c'est un phénomène médiatique comme on l'entend parfois. Mirette01, merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Certains rectorats estiment qu'on en fait trop sur ce sujet, constate Libé. Autre explication, Phare s'est mis en place mais sans budget supplémentaire, c'est un petit peu ennuyeux. Ça veut dire que les profs qui participent à ça, les équipes éducatives le font pro bono, gratuitement, malgré le temps investi là-dessus, et c'est un truc qui prend du temps. Fin de du dossier de Libé. Il faut traiter les harceleurs de la même manière que les victimes. Ils ont des fragilités qu'ils expriment de façon différente, c'est ce que je disais. Il faut s'occuper des harceleurs aussi. L'inversion des rôles est d'ailleurs fréquente avec des élèves qui deviennent tour à tour harceleurs et harcelés. Gabriel Attal prévoit dans le plan qui va être présenté aujourd'hui un questionnaire destiné aux élèves dans le but de détecter les signaux faibles et des cours d'empathie pour permettre l'apprentissage du respect de l'autre, comme il en existe au Danemark. Le Danemark est l'un des pays en Europe qui a réussi à lutter efficacement contre ce phénomène du harcèlement scolaire. Alors, tout ce qui a été mis en place au Danemark n'est pas forcément transposable dans notre pays. Il y a un petit éclairage ici que je vais vous lire, mais on peut peut-être s'inspirer de ça. Je vais le détailler dans un instant. Je vous lis un petit peu là-dessus. Oui, Samuel est un peu sceptique sur les mesures de confiscation du téléphone, tout ça. Moi aussi. Samuel Vimer qui écrit: ces deux solutions punitives contre le cyberharcèlement ne serviront à rien. Confisquer le téléphone, il en achètera un autre, ou il aura un PC ou une tablette chez lui, j'ajoute, il empruntera celui d'un copain. Restreindre les réseaux sociaux, il fera un autre compte, utilisera un VPN, n'importe quelle autre procédure de contournement. Oui, je pense que ce n'est pas forcément les bonnes mesures. Hein? C'est intéressant, hein? Mamiche écrit: mon fils de 8 ans se faisait embêter à la limite du harcèlement. Mon fils s'est plaint plusieurs fois, la maîtresse ne faisait rien pour sa part. J'ai discuté avec mon fils et son copain en présence du papa de l'ami en question. Et avec cette discussion, on a appris que les parents se séparaient et que cet ami de son fils de 8 ans ne le supportait pas. Oui. Je répète, vous ne réglez pas le problème du harcèlement sans prendre en compte l'histoire personnelle du harceleur. Je lis encore un ou deux messages. Et je vous lis ce qui se passe au Danemark, comment on a fait. L'école de la bienveillance. Ah oui, c'est le message d'Ostera que je cherchais, que j'ai vu tout à l'heure. Je fais partie de cette équipe donc phare, PHARE, dans un collège. L'idée, c'est vraiment que la réparation vienne des intimidateurs, donc des harceleurs, hein. À aucun moment on ne leur parle d'ailleurs de harcèlement. Pour les cas graves de harcèlement, le programme phare n'intervient pas, mais l'élève qui harcèle va directement en conseil de discipline. Ça me semble bien, ça. Ça me semble bien. Ça me semble bien. Je vais vous lire ce qui se passe au Danemark là-dessus. Pardon, je regarde mes audiences de questions pour un champion. C'est comme à l'école d'ailleurs. Tous les matins, à 9h, j'ai ma note. C'est important pour voir si tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors, au Danemark, qu'est-ce qu'on fait? Merci Blue pour le gentil message. L'école de la bienveillance, depuis la rentrée 2022, cette méthode scandinave qui s'appelle Free for Mobbery est testée chez nous. En région parisienne, en Île-de-France. Depuis quelques jours, les yeux de l'éducation nationale sont tournés vers le Danemark. Aux côtés de la Suède et de l'Islande, le Royaume scandinave est en effet l'un des pays d'Europe où le harcèlement scolaire est le plus bas. Le ministre Gabriel Attal s'y est d'ailleurs rendu la semaine passée, afin de découvrir les méthodes qui fonctionnent. Si aucune recette magique ne peut être dupliquée d'un pays à l'autre, a fortiori quand les cultures et les systèmes éducatifs sont si différents, certaines méthodes sont peut-être bonnes à suivre. Il en va ainsi de la méthode Free for Mobbery, qui veut dire libérer du harcèlement, déployée dans 40% des crèches aujourd'hui au Danemark, 60% des maternelles, 45% des classes élémentaires. Elle a fait ses débuts en France à la rentrée 2022, donc c'est vraiment une expérimentation, hein, dans des écoles maternelles des 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris, à Saint-Ouen, à Montreuil, à Éragny, dans le Val d'Oise, ainsi que dans des crèches de Paris et de Saint-Ouen. Le principe, comment ça marche? C'est de créer des communautés bienveillantes d'enfants dans lesquelles aucun membre ne peut se sentir exclu et où le harcèlement n'aura donc normalement aucune chance de s'immiscer. Il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent développer ensemble des dynamiques de groupe positives. L'idée n'est pas forcément qu'ils soient ensemble tout le temps, ni même qu'ils soient amis tout le temps, tous ensemble. Hein, ils gardent quand même un libre arbitre de leurs amitiés, mais qu'ils soient bons camarades les uns avec les autres, qu'ils veillent au bien-être de tout le monde, explique Margot Neuvial, qui est coordinatrice du programme à la Ligue de l'enseignement de Paris. Au Danemark, le programme est suivi par la recherche universitaire depuis une quinzaine d'années. Maintenant, le bilan, 70% des professionnels qui travaillent avec ce programme trouvent que les enfants sont plus bienveillants envers les autres. Ensuite, il y a une corrélation positive, significative, entre l'utilisation du programme et l'esprit de groupe des enfants et leur capacité à gérer les conflits par eux-mêmes. Les enfants deviennent plus empathiques. Voilà. Donc, ça marche puisque, effectivement, au Danemark, le harcèlement à l'école, le harcèlement scolaire a énormément baissé. Voilà. Alors après, on s'est penché hier sur le sujet. Au Danemark, par exemple, le CP, l'année du CP, on n'apprend pas la lecture, comme en France. C'est repoussé un an plus tard. C'est l'année qui correspond à notre CP, c'est une année, au Danemark, c'est une année où on apprend à vivre ensemble. On apprend à être ensemble. Waouh ! Vous voyez, donc, vous imaginez en France, le ministre de l'Éducation qui dirait bon, les parents, là, on va pas apprendre à lire aux enfants en CP. Quoi ? Non, on va attendre, on va retarder d'un an. On va plutôt les apprendre à vivre ensemble, à être ensemble. Waouh, bon, ouais. Donc tout n'est pas transposable chez nous, je suis pas sûr, mais voilà, au Danemark en tout cas ça fonctionne quoi. On va voir, hein, y a des annonces qui sont donc attendues aujourd'hui. Et puis, alors moi j'ai trouvé un édito dans les Échos sur le même sujet qui dit, eh bien le harcèlement scolaire c'est le nouveau MeToo. Voilà, et la journaliste s'appelle Cécile Cornudet s'en félicite. Au début ça peut surprendre, j'ai dit, comment ça le nouveau MeToo, vous allez comprendre. Le harcèlement scolaire est passé du fait divers, avant on en parlait comme ça vaguement quoi, quand il y avait uniquement des drames, au sujet politique prioritaire, aujourd'hui tout le monde en parle, et c'est tant mieux, la société est bousculée et la demande d'autorité massive. Pour la seconde fois en une semaine, donc deux ados ont été interpellés mardi pour harcèlement, interpellés par la police dans le bureau de leur proviseur, c'était La Roche-sur-Yon, bon il y a aussi une interpellation carrément dans une classe vous le savez, il n'y a pas longtemps, des policiers dans l'enceinte d'un lycée, polémique assurée, eh bien pas du tout, pas l'ombre d'un débat, personne ne s'en est ému plutôt d'ailleurs, je participe passé, personne ne s'en émeut, les vieux réflexes sont oubliés tant l'attente d'autorité est forte. Depuis le mois de juin, le harcèlement scolaire a fait rupture en politique, priorité absolue, a dit Elisabeth Borne, qui présente donc un plan aujourd'hui, ce fléau tue, a dit Gabriel Attal à l'Assemblée. Le problème a changé de nature aujourd'hui. Avec le téléphone portable, les jeunes ne sont plus seulement victimisés à l'école, mais après l'école. Hein. Tout le temps, avant l'école, après l'école, le week-end, la nuit, etc. H24, les parents n'ont plus prise, les enseignants n'ont plus prise. La parole, et ça c'est positif, s'est libérée, comme elle s'était libérée au moment de MeToo, sur les réseaux sociaux avec le hashtag harcèlement scolaire, sur la plateforme téléphonique du 3020 au ministère de l'Éducation qui reçoit 6 fois plus de courriers depuis 15 jours. Il y a de plus en plus d'appels au 3020, il y a de plus en plus de courriers au ministère de l'Éducation sur le sujet. 1 million de jeunes seraient concernés, dit Matignon. Tous les aspects du problème seront traités. Formation des autorités recueillant la parole, profs, policiers, comme pour ce qui a été fait pour les violences faites aux femmes. Bon, gros progrès encore à faire hein, d'ailleurs. Équipe dédiée dans les rectorats, téléphone confisqué, couvre-feu numérique, réponse pénale, voire cours de bienveillance comme au Danemark. Voilà les mesures qui pourraient être annoncées aujourd'hui. Les familles des victimes seront aidées, mais plus novateur, les familles de harceleurs seront mises devant leurs responsabilités. Tout parent devra se poser la question, est-ce que mon enfant peut être harceleur ? Et agir en conséquence. Déjà depuis l'été, ce ne sont plus les enfants victimes qui changent d'école, mais les enfants harceleurs. La peur doit changer le camp, ou comment une fois n'est pas coutume, la politique s'est très vite saisie d'un fait rongeant la société. Je vous lis sur le sujet, et on parle de pornocriminalité avec le Figaro juste après. Il y a Eva Kusanagi qui est un peu pessimiste, qui dit « Désolé, mais dans deux semaines, on n'en parlera plus, ça a toujours été le cas. Moi, ça fait des mois que j'en parle. » Et pas parce que je m'appelle Samuel Etienne, ça fait des mois que j'en parle parce que ça fait des mois que les journaux en parlent. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans la prise de conscience. J'en suis persuadé. Alors après, prise de conscience ne veut pas dire qu'on va prendre les bonnes mesures. Donc là, il faut attendre et on va surveiller tout ça. Mais il y a quelque chose. On est le début de quelque chose, sur le début de quelque chose. Un tonton Buzz parle de cette image, vous savez, d'un collégien là, qui a été interpellé, arrêté en plein cours par la police en uniforme après avoir harcelé une jeune fille en transition dans une boucle Instagram. Rémi Buisine, que vous avez entendu tout à l'heure, lui, il a dit « Moi, ça me va, en fait. » Rémi dit « Moi, ça me va que la police vienne en cours pour interpeller des élèves harceleur, ça me va. Voilà. Ça me va que la pression soit mise sur ses élèves, quoi. Ça va peut-être réfléchir les autres. Voilà. Ça, c'est ce que nous a dit Rémi vendredi. On en reparlera, parce que c'est important. Allez, on parle, je vais très vite ce matin, parce qu'il y a un milliard de sujets vachement intéressants. On parle... Merci beaucoup, Alexandra, pour ton gentil message. C'est adorable. Merci d'être avec nous ce matin encore. Allez, on parle de porno-criminalité. J'ai hésité à vous en parler ce matin. Trop de bons sujets, mais en même temps, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut parler aussi. Alors là, contrairement à la question du harcèlement scolaire, je ne suis pas très optimiste quant au fait que ça puisse changer à court terme, cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Porno-criminalité, pourquoi on en parle ce matin ? Parce qu'il y a un rapport qui révèle, dit le Figaro, l'ampleur du fléau. C'est un rapport sérieux du Haut Conseil à l'égalité qui révèle l'ultra-violence inhérente au milieu du porno et l'impunité dont profite son industrie qui se font une fortune. L'instance appelle à bloquer systématiquement les contenus illicites. C'est là où je suis assez pessimiste, moi, sur le blocage des contenus illicites sur Internet. Bon. Dans un rapport choc, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dresse le terrifiant constat de l'explosion de la violence sur les sites internet qui diffusent des contenus pornographiques. Des contenus qui seraient de plus en plus violents. Des millions de vidéos à portée de clic comportent ainsi des actes de torture, de barbarie insoutenable. Le mur d'indifférence qui a accompagné la montée de la violence dans le porno. Alors, ne vous trompez pas, ce rapport ne constate pas l'explosion de la mise à disposition d'images porno sur Internet. C'est le fait que ces images porno soient de plus en plus violentes. Le mur d'indifférence qui accompagnait la montée de la violence dans le porno est absolument sidérant. Il faut sortir du déni, alerte la présidente du HCE, Sylvie Pierre-Brossolette, que je connais bien, parce que qui est une ancienne journaliste, qui a travaillé au Point, je crois, notamment, qui est une excellente journaliste, qui est la présidente de ce Haut Conseil à l'égalité. Sylvie Pierre-Brossolette qui remet donc aujourd'hui au gouvernement, merci beaucoup Lightchin pour ce soutien, d'autant plus important que un jour je ne serai plus que de l'internet, moi, du numérique. Donc qui remet aujourd'hui un rapport sur cette édifiante étude sur les dérives d'une industrie encore difficilement sanctionnable. Lisons ce qu'il y a dans ce rapport, c'est vraiment intéressant. Il y a Aubéris qui dit, bien sûr, ce sont toujours des actes de violence, de torture sur une femme. Oui. Okay, ah oui. Dans l'ultra immense majorité, oui, bien sûr. On ne peut plus tolérer qu'en 2023, dit le Haut Conseil à l'égalité. Quoi ? Attends, je m'arrête juste un instant. Il y a David qui me donne une info sur quelqu'un que je connais bien. Un collègue. Je vérifie l'info. Si elle est vraie, c'est un peu triste. Aïe, 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 ah, mon pauvre. Il y a David qui me dit dans le chat, bonjour Sam, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'arrive à peine. Je viens d'avoir une information qui m'attriste. Bruno Guillon, l'animateur, un des gars les plus gentils du PAF, et toute sa famille ont été menacés, séquestrés, volés en pleine nuit par des cambrioleurs qui sont introduits chez eux par effraction. Bon, info chat, je vérifie toujours. Non, c'est vrai. Article du Parisien, l'animateur Bruno Guillon et sa famille séquestrés chez eux cette nuit. Waouh. Quatre individus auraient pénétré au domicile de l'animateur, donc la nuit dernière, avant de repartir avec des montres, des bijoux, des sacs de luxe. Donc séquestré avec sa famille, sa femme et un enfant de 14 ans. Quatre hommes, entrés par effraction, ils ont brisé une vitre au rez-de-chaussée. Ils sont rendus dans la chambre parentale. Bruno Guillon explique avoir été menacé à l'aide d'une arme de poing placée sur sa tempe. Diesel, ton message, je ne sais pas s'il concerne l'histoire que je suis en train de lire, mais il est un peu bizarre. Son épouse était alors ligotée et bâillonnée. Le couple n'a pas été blessé, mais est en état de choc. La PJ a été saisie du dossier, les suspects sont cherchés. Bruno n'était pas ce matin à l'antenne en direct sur Fun Radio où il fait une matinale. Waouh. C'est chaud. Alors moi, ça me touche d'autant plus que Bruno est quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup, puisque vous savez, à la télé, il y a les gens qui sont à l'antenne comme ils sont dans la vie. C'est-à-dire, Et Bruno en fait partie. Vous avez des animateurs qui sont souriants, gentils, empathiques. Voilà, vous avez envie vraiment de passer des vacances avec eux, quoi. Et puis, il y en a d'autres, beaucoup moins nombreux, qui ne sont pas pareils. C'est-à-dire, à l'antenne, ils sont très chaleureux, très gentils. Puis, quand la caméra s'arrête, bon, la personne devient une autre personne. Bruno, c'est le même. C'est le mec le plus gentil de la Terre. Merci Diesel. Je vois que tu corriges ton message. Et par exemple, Bruno, là, il fait un truc pour les Restos du Cœur ce week-end, auquel il m'a invité. Donc, on a rendez-vous samedi midi. Il a donné rendez-vous à plusieurs amis animateurs pour animer une radio, une web radio au profit des Restos du Cœur. Et Bruno, c'est un mec comme ça. C'est quelqu'un de gentil, de généreux. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter de notre métier ensemble. C'est vraiment un garçon, voilà, d'une grande humanité. Donc, je suis un peu triste pour lui. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais je vais juste lui envoyer un petit message. Puisqu'on s'est créé une petite boucle. Vous m'excusez, hein, j'arrive. C'est quand même dingue, hein. C'est fou, hein. Pauvre. T'as un pistolet sur la tempe quand même, hein. Incroyable. Bon, j'espère que ça doit être chaud quand même. Oh, waouh. Bon, c'est waouh. C'est bon. Je la violence et puis le, comment dire, les conséquences psychologiques après, quoi. Bon, alors pardon, on revient à notre sujet sur le Figaro. Merci David en tout cas de m'avoir donné cette info parce que j'avais pas vu cette info. Ishap, merci pour le Prime. Ludwig Bauge, merci beaucoup pour le soutien. Pour ceci, Broubrou, merci pour les bits. Alors, on retourne à la violence dans le porno. Donc, extrait de ce rapport du Conseil d'égalité qui est rendu aujourd'hui au gouvernement, on ne peut plus tolérer qu'en 2023, alors que les droits des femmes constituent pour la seconde fois la grande cause du quinquennat, l'industrie pornographique prospère sur la haine et la violence contre les femmes, dans l'indifférence générale et l'impunité la plus totale. Je trouve que c'est quelques mots, mais ce sont quelques mots qui disent tout et qui expliquent le problème. On ne peut plus tolérer qu'en 2023, alors que les droits des femmes constituent pour la seconde fois la grande cause du quinquennat, l'industrie pornographique prospère sur la haine et la violence contre les femmes dans l'indifférence générale et l'impunité la plus totale. Des sites infestés de vidéos de viols, de scènes de triple pénétration anale, de torture, de gangbang, je vous passe les termes et les descriptions parce que ça va quoi. C'est ultra violent. Le rap, je vous parle que du plus soft quasiment, quoi. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui avait fuité sur le site L'Informé dresse un terrifiant constat de la montée en puissance de la violence sur les plateformes qui diffusent des contenus pornographiques. Il s'agit d'un massacre illégal à but lucratif. Des millions de vidéos montrent des actes de torture, de barbarie insoutenable, dénonce Sylvie Pierre-Brossolette, qui est la présidente du Haut Conseil à l'égalité. Le mur d'indifférence qui a accompagné la montée de la violence dans le porno est absolument sidérant. Il faut sortir du délit. Le titre du rapport « Pornocriminalité mettant fin à l'impunité de l'industrie pornographique » est un appel à agir. Mercredi, il va être remis au gouvernement à la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard. Dans ces vidéos, les femmes sont caricaturées, des pires stéréotypes sexistes, racistes sont humilier ces femmes, objectifier, déshumaniser, violenter, torturer, alerte le Haut Conseil dans une lecture féministe des méfaits du porno. Alors que l'égalité entre les femmes et les hommes est pour la deuxième fois grande cause nationale du quinquennat, dit ce rapport, la France ne peut pas tolérer que les femmes soient massacrées, sur ces tournages. C'est, le mot est fort. Il n'est plus possible de rester aveugle face à de telles pratiques qui engendrent une culture du viol. Pour réaffirmer l'interdiction de la marchandisation et de la sexualisation d'autrui, le HCE suggère de créer une infraction générique d'exploitation sexuelle. On est dans le Figaro, flocon de neige, intégrant les nouvelles formes de cyberproxénétisme. Donc le Conseil demande la création par le législateur d'un délit spécifique pour pouvoir poursuivre ceux qui sont derrière ces scènes avilissantes. Voilà. Et qui font énormément d'argent, bien sûr. Je vais vous lire dans un instant, hein. Je vous lis d'abord le contenu du rapport. La pornographie en soi n'est pas illicite, hein, on le rappelle bien sûr. Hein. Mais les plateformes qui déversent des vidéos gratuitement depuis plus de 15 ans ont construit leur modèle économique sur le trash. Analyse Thomas Romer, qui est le fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Toute la difficulté juridique est de définir ce qui est illégal et qui n'est pas illégal quand on est censé être dans un genre fictionnel. Alors, très intéressant, vous allez voir. Le Haut Conseil de l'égalité a voulu faire un test en procédant à des signalements de 35 vidéos problématiques sur le site Pharos. Vous savez, c'est la plateforme gouvernementale où on peut signaler des contenus illicites sur Internet. Hein, 35 vidéos. Parmi les vidéos signalées, je peux même pas vous lire les intitulés des vidéos, parce que c'est trop hardcore, quoi. Enfin, bon, il y a le titre d'une vidéo dit que la femme se fait torturer et est électrocutée. Ok. Aucun de nos signalements à Pharos sur les contenus à l'illégalité flagrante n'a été suivi d'effet. Aucun. Tous les contenus sont restés en ligne. Zéro résultat. Voilà, bon. Donc ça marche pas. Sur les contenus pédopornographiques maintenant, mettant en scène des enfants ou des mineurs, que Pharos peut aujourd'hui bloquer ou déréférencer à l'instar des contenus à caractère terroriste, le HCE dénonce également le choix incompréhensible d'une application bien trop restrictive, quasiment aux seuls enfants prépubères. Hein. L'étude du HCE a dénombré 1,3 million de vidéos pédopornographiques, catégorie très recherchée. La seule apparence de minorité, dit le HCE, devrait suffire pour faire retirer la séquence, quel que soit l'âge de la personne filmée. Malgré ces critiques, l'instance appelle à élargir les pouvoirs de cet instrument de contrôle, donc Pharos, et préconise d'étendre sous le contrôle de l'ARCOM la capacité de retrait et de blocage de Pharos à toutes les atteintes volontaires à l'intégrité d'une personne. À propos de l'ARCOM, donc c'est l'ancien CSA, hein, voilà. Qui a autorité sur les contenus à télé, à radio, mais aussi sur Internet, et qui est au centre de plein de débats sur comment encadrer certains contenus à la télévision. Vous avez en mémoire les amendes qu'a reçues TPMP, les énormes amendes ces dernières années, les contenus sur Internet, tout ça. Sachez que le président de l'ARCOM, voilà, sera mon invité bientôt dans une rencontre, Étienne, c'est dans quelques semaines, voilà, sur cette chaîne. Et on parlera notamment de la lutte contre la violence, les images violentes porno et l'accès des jeunes, des enfants, des mineurs à ces images. C'est bientôt sur cette chaîne. Voilà, hop, justement, la lutte contre l'exposition massive des enfants à la pornographie. 2,3 millions de mineurs. 51% des garçons de 12-13 ans en consomment chaque mois, est l'un des principaux aspects du projet de loi sur la régulation de l'espace numérique. Ce dernier prévoit le blocage administratif par l'ARCOM des sites pornographiques ne vérifiant pas l'âge de leurs utilisateurs sans passer par le juge, avant salué par le HCE comme par les associations de protection de l'enfance. Reste que les modalités de son application font polémique, et on en parlera avec le président de l'ARCOM. Au cœur des interrogations, le référentiel technique sur le contrôle d'âge qui devra être fourni par l'État aux sites pornographiques. Le HCE demande au gouvernement de revoir sa copie d'urgence, craignant que ce référentiel soit attaqué en justice par l'industrie du porno. On fonce dans le mur, dit Thomas Romer. Ce référentiel est un piège qui pourrait retarder de 10 ans le blocage des sites porno accessibles aux moins de 18 ans. À titre personnel, j'ai l'impression que il est très difficile, sinon quasi impossible, de réguler l'accès au porno, notamment pour les enfants, en mettant des mesures d'âge. Voilà. Le politique français, le législateur français a des ambitions en la matière, voilà. Sauf qu'il faut mettre en place ça techniquement. Je pense que c'est très compliqué. C'est l'une des questions qu'on posera ensemble au président de l'ARCOM dans pas longtemps, là. En octobre, je crois qu'il vient à la maison en octobre. Voilà. Et on parlera de plein d'autres choses avec lui aussi. De télévision, d'internet, de Twitch et de porno. Allez, je vous lis sur cette question du porno, de la pornocriminalité et de la montée de la violence dans ce milieu. Voilà. C'est pas faux, hein. Il y a Nuno qui dit, en s'attaquant aux sites porno, aux sites internet classiques, quoi, le gouvernement a 4 ans de retard. Tout se fait maintenant sur les canaux Snapchat, Instagram, Telegram, WhatsApp. Les ados sont ici maintenant. C'est pas faux, ça. Tiens, tu vois, Candy, j'étais tombé sur du porno lorsque j'avais 10 ans. Ça m'avait énormément impacté, pour être honnête. En tout cas, ce sont des débats qui sont passionnants et je suis content de recevoir le président de l'ARCOM sur cette chaîne dans pas longtemps là. Ça va être une belle émission, je pense. Je vais vous proposer ça un soir à 20h, quoi. Alors, je vois quelques messages qui sont pas très nombreux sur le mode « Ah oui, mais après tout, c'est fait par les adultes consentants, notamment ces femmes dont vous parlez, elles sont consentantes, on les a pas obligées. » Alors, sachez d'une part que, à ce propos, vous avez un dossier dans l'Humanité ce matin, que j'ai pas le temps de vous montrer, sur un procès qui est en cours, là, sur l'affaire qu'on appelle French Bukake, là, voilà, qui montre bien comment, en fait, des gens, pour le coup en France, hein, ont utilisé des moyens totalement illégaux pour progressivement coincer, amener des femmes en situation de détresse à accepter des pratiques humiliantes, voilà, en les manipulant, en leur mentant. Voilà. Donc ça, il y a un dossier très intéressant dans l'Humanité aujourd'hui sur cette question, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai un commentaire de Léonel que je trouve très bien écrit sur le sujet. Hein. Léonel écrit « Ceux qui demandent pourquoi les femmes se laissent filmer, hein, dans ces pratiques qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous demanderiez à un SDF pourquoi il reste dans la rue ?» Il y a un aspect psychologique extrêmement complexe autour de ces personnes qui sont dans des milieux violents, qui sont des personnes qui ont été blessées dans la vie. Hein. Le recruteur là, de ces jeunes femmes pour ce site internet en France, là, qui se faisait passer pour une femme d'ailleurs en ligne, il visait explicitement des femmes qui étaient en situation de détresse psychologique ou familiale ou matérielle ou les trois, hein, bien sûr. Ce sont des personnes qui ont été blessées par la vie, qui ont un énorme manque d'estime d'eux-mêmes. Quand tu es dans une telle merde sociale, c'est pas évident de s'en sortir. Voilà, et elles se font piéger. Ce sont des victimes, bien sûr. Je vous parle. 1 milliard de commentaires sur le sujet, je vais en lire encore quelques-uns, parce que je voudrais aussi vous parler de l'éducation sexuelle à l'école, parce que pour moi c'est quelque chose d'important. Alors Merlin Papin, tu écoutes bien tous les mots quand même. Non, Samuel, on ne peut pas comparer une actrice porno à un SDF. Ici, il ne s'agit pas de... c'est pas une dénonciation du porno. Hein. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité qu'on évoque, il est une dénonciation, un appel à agir contre la violence. Et la violence, la plupart du temps, imposée aux femmes dans le milieu du porno. Hein, c'est pas contre, c'est, il ne s'agit pas d'interdire aux femmes de faire commerce de leur corps, notamment par le biais de la pornographie. Bien les protéger contre la violence, qui est en général infligée par des hommes. Tiens, Jacob Paulson qui écrit, je ne m'attendais pas à ce qu'on cite Rocco Siffredi ce matin là-dessus, c'est Rocco Siffredi qui en parlait, je crois, et qui disait, le fameux acteur X, que plus la société devenait violente, plus le porno devenait violent, et que lui-même était choqué de ce qui se faisait aujourd'hui. Et puis après, ça a des conséquences sociales hein, sur la représentation, bien sûr, du sexe et de l'amour. Hein, Chamanit écrit, c'est une évidence, c'est aussi l'image de la femme que ça donne aux consommateurs de porno, c'est vraiment pas anodin. Hein. Après, vous avez aussi des consommateurs de ces images, qu'ils soient adultes ou adolescents, ou, je le rappelle, enfants, parce que l'accès à ces images intervient de plus en plus tôt à cause d'Internet. Qui voient leur construction de la représentation de l'amour et du sexe influencée par ces pratiques extrêmes. Hein. C'est catastrophique. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je pense que le Pala Kokol ne se trompe pas en écrivant quand on se penche sur le passé des travailleurs du sexe. Par ailleurs, on se rend vite compte que ce sont souvent des écorchés de la vie. Profiter de la misère des autres pour assouvir ses délires pervers, j'espère que l'enfer existe. Voilà. Alors, l'éducation sexuelle. Je surveille le temps parce que je vous abandonne à 11h20. J'en suis désolé au vu de toute l'actualité. L'éducation sexuelle à l'école, c'est important parce que là aussi, il y a un petit problème en France. Article dans le Figaro d'Aude Barietti. 3 séances par an, du CP à la terminale. En théorie, la règle en matière d'éducation à la sexualité, énoncée dans l'article L312-16 du Code de l'éducation, est claire. Depuis 2001, ça fait plus de 20 ans, durant sa scolarité, chaque élève doit bénéficier de ces séances par groupe d'âge homogène qui peuvent aborder de nombreux sujets, parmi lesquels la sensibilisation sur les risques d'une exposition justement au contenu pornographique et la nécessaire prise de recul face à ceci pour leur expliquer que le porno, c'est pas l'amour. Et c'est de la fiction. La réalité est tout autre, comme le rappelle un rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche publié en 2021 lors d'une enquête conduite dans une académie. L'inspection a constaté que seul 15% des écoliers et des lycéens, 20% des collégiens seulement, bénéficiaient de ces 3 séances qui sont normalement obligatoires. Donc il y en a pas. Hein. En gros, l'éducation sexuelle à l'école, qui est censée être obligatoire au vu de la loi, elle n'est pas faite. De nombreux parents se satisfont pleinement de cette situation, estimant que l'école n'a pas vocation à traiter d'éducation sexuelle. Voilà. Sauf que l'école ne s'en occupe pas, les parents bien souvent ne s'en occupent pas non plus. Il va bien se débrouiller, hein, ses petits copains vont lui expliquer. Les petits copains avec le téléphone portable dans la cour qui montrent des contenus sur Internet. Certains n'hésitent pas à le dire publiquement, parents d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas d'éducation sexuelle à l'école. Très récemment, vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique. La colère suscitée en Belgique par la généralisation d'un programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle a montré que le sujet était explosif, y compris au-delà des frontières de l'Hexagone. Bon, je n'ai pas bien suivi le sujet, mais je crois que vous avez des familles en Belgique qui ont eu des manifestations extrêmement violentes contre les écoles qui avaient mis en place ce programme en pensant que c'était un programme qui en gros parlait de cul et de porno à leurs enfants, quoi. Ouais, avec des écoles brûlées, des écoles qui ont été incendiées, exactement. Selon une étude publiée en mai dernier par l'ARCOM, dont je reçois bientôt le président, la part des mineurs fréquentant des sites adultes a fortement progressé en 5 ans, passant de 19% en 2017 à 28% en 2022. De plus en plus, hein, de mineurs. En moyenne, dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent sur de tels sites chaque mois. Nos élèves font face à la pornographie bien plus tôt qu'avant, confirme Claire Dupé, qui est principale d'un collège, dans l'Hérault. Aujourd'hui, la pornographie est partout en accès libre sur Internet, dit encore Samuel Comblaise, directeur des opérations de l'association e-enfance. Je comprends les réticences de certains parents, mais il faut en parler. L'idée n'est pas d'aller provoquer des choses perturbantes chez les enfants qui seraient loin de ces contenus, donc on y va à petits pas, Dans nos programmes, on ne parle pas spontanément de pornographie. On évoque plutôt des images inadaptées et sont souvent d'ailleurs les élèves qui abordent eux-mêmes les questions. Bien sûr qu'il faut ses cours à l'école, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Après, ça peut être plus ou moins bien fait, mais il faut le faire. Bergeau, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis content que tu exprimes ton opinion. Bergeau se dit, c'est pas à l'école de gérer les défaillances d'éducation des parents en la matière. L'éducation sexuelle est un élément intime, les approches sont propres à chacun, les affirmer, etc. J'entends. Mais comme tu le dis toi-même, il y a défaillance d'éducation des parents en la matière. Je ne suis pas dans chaque foyer en France. sinon, vous me verriez tous les soirs au dîner, vous en auriez marre. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui s'emparent du sujet, en fait. C'est compliqué, à un moment, de prendre son enfant, puis à partir de quel âge, et de lui dire, il faut que je te parle de... C'est compliqué. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas le faire, qui n'osent pas le faire, qui ne savent pas comment, et qui se disent, la société va le faire. Hein, la société va le faire, la cour de récré va le faire, les petits copains vont le faire, et il va bien trouver 2-3 magazines. Mais non, en fait. Évidemment que c'est une responsabilité familiale. Mais moi, je pense que c'est une responsabilité sociétale. Voilà, c'est une responsabilité de la famille, de la société, de l'école aussi. Voilà, une responsabilité partagée. Comme sur la question de la violence à l'école. Et je pense qu'il faut le faire assez tôt. Parler du consentement, très important. Hein. Je pense que ces cours d'éducation sexuelle, c'est aussi l'occasion d'expliquer très très tôt aux enfants, de dire que leur corps leur appartient, que personne n'a le droit de les toucher sous quelconque manière que ce soit sans leur autorisation. Bah voilà, déjà c'est déjà ça quoi. Le consentement, le respect, voilà ce genre de choses quoi. Bah, pardon, hein, mais ça me semble important quoi. De libérer aussi la parole, dit Diesel. Hein. Certains enfants ont sûrement des questions. Si on leur donne même pas le droit d'y penser, on les enferme. Merci Bergeau. Oui, mais c'est très agréable de parler. C'est vrai que parfois c'est frustrant parce que je vois plein de commentaires très intéressants sur le sujet et puis on n'a pas forcément le temps qu'on voudrait pour aborder ces sujets. Encore une fois, chacun des sujets que j'évoque ce matin pourrait nous prendre 3 heures. Quoi. C'est un peu la limite du truc. C'est pas faux. Il y a Ifato qui dit, Sam, il faudrait regarder Sex Education. La série, ça suffira. Elle est bien cette série, c'est vrai. Lilou Rennes nous dit, je préfère parler de ça avec mon fils ouvertement sans tabou, être sûr qu'il ait les bonnes informations plutôt que de laisser se noyer dans de la fausse information à l'école par les copains. Formidable, je pense, Lilou Rennes, hélas que la plupart des parents ne font pas comme toi. Oui, ben voilà. Alors, je suis de l'avis de Night Roy, mais je peux comprendre que certains ne soient pas de notre avis. Night Roy qui écrit, il y a une responsabilité sociétale à éduquer la jeune génération, à mon sens, que ce soit en matière sexuelle ou en matière de vivre ensemble, de tolérance. L'école, c'est fait pour apprendre des choses, ok, français, anglais, maths, etc., mais pas que, mais pas que. Et l'amour dans tout ça, Tartichou, ben, l'amour il est dans tout ça justement. Parce que le sexe c'est l'amour, c'est aussi l'amour. Je crois que pour accompagner des enfants, des ados et devenir des adultes équilibrés, qui vont pouvoir trouver le meilleur équilibre possible, il faut leur parler de sexe assez tôt en fait. Assez tôt en fait. Merci Yoldir. pour le gentil message et pour le soutien. Vico, merci pour le Prime. Donoir, merci pour le 17e mois d'abonnement. Vous êtes formidables. Bon, on reviendra sur ce sujet qui est un sujet essentiel. Vous voyez, j'ai hésité à vous en parler parce que je pensais qu'on manquerait de temps, mais je crois que j'ai bien fait de vous en parler. Dans l'humanité, toujours, parce que l'humanité se penche également sur ce rapport du Haut Conseil à l'égalité qui étrit l'industrie du porno, vous le voyez, et se penche aussi sur ce procès du réseau French Bukkake, là, si le sujet vous intéresse, pour voir un petit peu comment des femmes peuvent être manipulées par des personnes mal intentionnées dans ce milieu, vous allez halluciner, c'est à lire dans l'UMA, voilà. L'UMA qui se penche aussi sur alors un autre rapport sur les rentiers. Alors, c'est pas l'humanité, un journal communiste, mais c'est pas un rapport communiste. C'est un rapport parlementaire sur le fait qu'il y a plus en plus de rentiers en France, de gens qui vivent bien, tout simplement parce qu'ils sont nés au bon moment, au bon endroit, de plus en plus. Un édito d'abord de Stéphane Sahuc là-dessus. C'est un texte qui fera date dans les annales de la République, ça n'a aucun rapport avec le sujet qu'on vient d'évoquer. Présenté par le communiste Nicolas Sansu et le centriste Jean-Paul Mattei, ce rapport d'information sur la fiscalité du patrimoine dresse un bilan de l'évolution de notre société, montre comment celle-ci est passée d'une société de... Je suis assez fier de ma transition pourrie. Comment on est passé d'une société du mérite, je ne sais pas si on a un jour été dans une société du mérite, mais à une société de rentiers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fortune héritée représente aujourd'hui 60% du patrimoine total contre 35% dans les années 70. On s'arrête sur ce chiffre. La fortune héritée, donc celle qu'on n'a pas méritée, hein, représente aujourd'hui 60% du patrimoine total contre 35% dans les années 70. Ce que pointe ce rapport, c'est l'accélération de ce phénomène. Au cours des 20 dernières années, 2021, 92% de la masse de patrimoine brut est détenue par la moitié la plus dotée des ménages. Les 5% des mieux dotés détiennent un tiers des avoirs patrimoniaux. 1% les mieux dotés en concentrent 15%. Alors certes, ce rapport ne propose pas de grand soir fiscal, explique l'UMA, mais tout dans son contenu plaide non seulement pour une profonde réforme fiscale, mais également pour une remise à plat des concepts de propriété, de patrimoine et d'héritage. La propriété et le patrimoine ne peuvent pas être synonymes de ce que Robespierre appelait la cupidité homicide qui conduit certains à entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Là c'est l'édito, puis je vais vous lire l'article de Cyprien Boganda sur le sujet. Le rapport donc qui épingle cette France des rentiers. Un texte publié mardi, donc hier, pointe la concentration des patrimoines à l'œuvre en France. Parmi ses préconisations, un impôt mondial sur les plus riches. Il est peu habituel qu'un rapport parlementaire débute par une citation de Beaumarchais, c'est le cas ici, extrait du mariage de Figaro, le valet fustige son maître, un noble qui n'a d'autre mérite que d'avoir touché un bel héritage à sa naissance, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela vous rend si fier. Vous, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Le rapport parlementaire sur la concentration des patrimoines publié ce mardi se garde bien d'affirmer que la société française contemporaine ressemble de plus en plus à celle de l'ancien régime, mais sa lecture le laisse pourtant supposer. Alors, tonton Buzz, on lit certes un article de l'Humanité, mais on lit un article de l'Humanité sur un rapport parlementaire. Voilà. Et ces chiffres sont issus d'un travail parlementaire, pas des analyses de l'Humanité. Les chiffres sont un petit peu fous. Les chiffres, justement, les voici. 1%. Actuellement, 1% des héritiers les plus riches d'une génération vont percevoir en moyenne 4,2 millions d'euros au cours de leur vie. C'est de ces gens-là dont il est question ici. 1% des héritiers les plus riches d'une génération vont percevoir en moyenne 4,2 millions d'euros au cours de leur vie. Dans le même temps, l'héritage médian des Français ne dépasse pas 70 000 euros. Il n'est pas question dans ce rapport, ou même dans l'UMA, de toucher à l'héritage des gens qui héritent de 70 000 euros. Hein. Vous l'avez bien compris. Encore mieux, 1% des héritiers les plus riches peuvent désormais, en vivant de leur seule rente, gagnaient plus d'argent que 1% des salariés les mieux payés. Notre travail objectif, le fait que la France est devenue une société d'héritiers, résume le député Nicolas Sansu, qui certes est communiste, mais qui a fait ce rapport avec un élu centriste. La question est de savoir si on continue ou si on met un coup d'arrêt à cette dynamique d'accumulation. Le rapport démarre sur un constat difficilement contestable. Les inégalités de patrimoine en France progressent depuis plus de 20 ans maintenant. Les 10% des ménages les plus dotés disposent d'au moins 700 16 000 euros d'actifs, les 10% les moins fortunés de 4 400 euros au maximum, soit 163 fois moins. Pourquoi les fortunés s'enrichissent-ils aussi vite? L'une des explications tient à la politique monétaire. Les banques centrales, en inondant le système financier de liquidités ces dernières années, ont fait baisser les taux d'intérêt, ont fait flamber la valeur des actifs financiers et immobiliers qui constituent justement le cœur de la fortune des plus riches. Sans aller jusqu'à promettre un grand soir fiscal, le rapport envisage une trentaine de mesures pour enrayer cette mécanique des inégalités. Plafonnement de l'abattement de 30% sur la résidence fiscale dans l'assiette de l'IFI, l'impôt qui a remplacé l'ISF, qui n'est que sur l'immobilier. Refonte du régime fiscal de l'épargne retraite, alourdissement de la taxation des revenus du capital, etc. Deux mesures vont faire couler sans doute beaucoup d'encre, dit l'humanité. La possible création d'un impôt mondial sur le patrimoine des ménages les plus riches, pour financer les aides aux pays les plus pauvres, ainsi que la mise en place au niveau européen d'une taxation temporaire des patrimoines les plus riches afin de financer la transition climatique. C'est à la fois une urgence sociale et climatique, disent les rapporteurs, qui insistent plus largement sur la nécessité de réintroduire de la justice de notre fiscalité. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, dit Nicolas Sansu, les cadeaux aux plus riches se font au détriment des couches modestes et moyennes. L'ISF a été supprimé. Dans le même temps, la TVA a atteint des niveaux inégalés. C'est pourtant l'impôt le plus injuste de tous, puisque la TVA, vous le savez, touche tous les ménages, quel que soit le revenu. Allez, je vous lis un petit peu. Quick, écrit, je crois que tu as raison de le dire. En fait, on ne se rend pas compte ici, personne dans le chat n'est concerné. On parle d'un niveau de richesse qu'on ne peut imaginer. On ne parle pas d'un cadre subre à 5K par mois, quoi. Voilà, on parle des gens, en gros, de ces 1% de gens en France qui... 1% des héritiers les plus riches, très peu de gens, hein, d'une génération, qui vont percevoir 4,2 millions d'euros au cours de leur vie. On parle de ces gens-là, en fait. Hein. Je pense que Quick a raison. Alors, je n'ai pas ma carte au Parti communiste, mais Pomme de Terre Rôti dit « Mais du coup, il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont bien, c'est quoi le problème ?» Il n'y a pas de problème. Pas de problème. La question que pose ce rapport, c'est que le fait d'avoir de l'argent est un problème et qu'il y ait des gens riches et des gens pauvres, c'est une question dont on peut débattre. La question, c'est que des gens soient riches, très riches, sans à aucun moment l'avoir mérité, sans à aucun moment l'avoir travaillé pour, tout simplement par l'héritage, un phénomène qui se renforce de plus en plus. Passer de société de mérite à société de ceux qui héritent, quoi. Alors, certains sont un peu vent debout contre ce débat. Hein. Captain Lotan dit « C'est très bien comme ça, je préfère donner ma fortune à mes enfants qu'à l'État. » Merci Pafu pour le 7e abonnement. Merci Frasia pour le Prime. Merci Inex TV pour le Prime, merci pour le soutien. Merci Brisby38 pour le 5e mois d'abonnement. Alors ça, c'est Ça, c'est un débat. Là, on rentre dans un débat sur la fiscalité qui est passionnant, mais il y a Yagamito. Mais... Sauf que comment veux-tu que des ultra-riches restent en France? Ils peuvent se barrer dans un paradis fiscal à tout moment. Dans le même temps, justement, il faut lutter contre les paradis fiscaux, justement. InsertCoin72, merci beaucoup pour le quatrième mois d'abonnement. Merci à toi. Alors, la question c'est, et là j'ai pas la réponse, parce que la réponse elle est politique, où placer la barre de l'héritage des trous? À quel niveau? Voilà, c'est une question qui est posée par The Storm Family. Très bonne question. Il y a Azalid qui m'envoie un message sur Twitch qui me dit « Je fais partie de ces 1% et je trouve aussi que c'est scandaleux. Je serais pour une redistribution au-delà d'un certain seuil. J'en ai beaucoup profité quand j'étais jeune, puisque évidemment, quand on est jeune dans un milieu favorisé, très favorisé, bien, on en profite déjà pour s'élever dans l'échelle sociale par le biais des études, etc. Il y a un article que je ne vous ai pas lu ce matin sur le soutien scolaire, avec de plus en plus de familles en France qui font appel, pour celles qui en ont les moyens, à du soutien scolaire très très tôt pour donner de meilleures chances à leurs enfants pour réussir dans notre système. Et après, je reprends le message d'Azalide, j'en ai beaucoup profité quand j'étais jeune et je n'ai pas de légitimité sur cet argent. Voilà. Il y a Laure Marlou qui me dit, est-ce que tu peux redonner le chiffre du début, Sam, sur la part de l'héritage dans le patrimoine? La fortune héritée représente aujourd'hui 60% du patrimoine total contre 35% dans les années 70. Vous prenez aujourd'hui la richesse des individus, des citoyens en France, leur patrimoine, leurs biens immobiliers et immobiliers, eh bien 60% de cette... la fortune qui vient de l'héritage représente 60% de ce patrimoine total. C'est, ça ne vient pas du travail de la personne, ça ne vient pas de la prise de risque, de l'engagement, de l'investissement, etc. Du mérite. À 60%, cette richesse patrimoniale, elle vient de l'héritage. Voilà. 35% seulement dans les années 70. Ça pose question. Encore une fois, le débat, il n'est pas sur les héritages à 4 000 euros, à 40 000 euros, ou même à 200 000 euros, là, ou 300 000 euros. Là. On parle des héritages, comme le dit, rappelle Captain McBurney, à plusieurs millions d'euros. Walney rappelle que Mélenchon avait donné la barre de 12 millions d'euros. Et se souvient qu'une partie de la classe moyenne s'en était offusquée, mais 12 millions d'euros, mais qui est concerné quoi? C'est très très, même pas beaucoup de gens. Alors, difficile de donner mon avis sur des sujets aussi sensibles, mais Towern me pose la question. Towern me dit, Étienne, appelle-moi Sam, et toi sans jugement de valeur, j'imagine que tu gagnes très bien ta vie. Je la gagne très correctement, oui, je ne suis pas... Voilà, je gagne bien ma vie aujourd'hui, peut-être pas demain d'ailleurs, je suis dans un métier où les choses vont quand même très très vite. Donc aujourd'hui j'ai la chance de bien gagner ma vie, notamment parce que j'ai pas mal d'activités différentes. Je ne sais pas si ça va durer d'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout que ça puisse durer. Quelle est ta vision sur la gestion de ton héritage? Que c'est de l'argent que je ne mérite pas, que je n'ai pas mérité. J'ai eu la chance de naître dans un milieu, confortable. Mes deux parents issus eux-mêmes de tous les deux de familles très modestes, pour pas dire pauvres, dans des milieux agricoles très modestes bretons, ont eu tous les deux, beaucoup travaillé tous les deux et ont réussi à nous donner aux trois enfants pour le coup un cadre matériel qui est extrêmement confortable. Donc j'ai profité de tout ça. Ça veut dire en termes éducatifs. En termes d'accompagnement, je parlais de cours de, vous savez, de renforcement scolaire, tout ça, j'ai eu ça. Voilà. Je me suis permis aussi de me tromper dans mon orientation au niveau de mes études supérieures et d'être baqué, soutenu accompagné par mes parents qui avaient les moyens de le faire. Donc j'ai profité déjà, moi, hein, de cette famille qui pouvait matériellement m'accompagner, ce que beaucoup de familles ne peuvent pas faire. Donc j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup plus que la plupart dans notre pays. Voilà. Donc en vrai, je n'ai pas... Aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas besoin, moi, d'hériter. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est un regard très, très personnel sur le sujet, quoi. Quelle heure il est ? 11h03. Oh, 11h03. Je vous lâche dans 20 minutes, c'est pas possible. Oh zut, il reste trop de trucs, il reste trop de trucs. Il y a Trigger qui dit oui, mais est-ce que l'État le mérite plus que toi ? Tes parents sont quand même heureux de savoir que l'argent te revient à toi aussi quand même. Attention, on parle de toute façon. Les héritages dont on parle ici. À supposer qu'on veuille les taxer plus, hein, c'est ça la question qui est en suspens dans ce rapport, c'est des montants qui de toute façon ne me concernent pas, quoi, par ailleurs. Mais c'est pas l'État qui mérite plus que moi cet argent. Si l'État demain va taxer plus les très gros héritages, c'est un peu l'idée, c'est pas de l'argent pour l'État, c'est de l'argent qui va être redistribué ensuite, quoi. Voilà. C'est marrant parce que c'est toujours la même question. C'est Bran qui dit, mais toi Étienne, appelez-moi Samuel, arrêtez de m'appeler par mon nom de famille, c'est épuisant. Préfères-tu donner tes biens à l'État ou à tes enfants? Mais c'est pas à l'État que vous quand vous payez des impôts. Arrêtez de penser que vous donnez comme ça votre argent à un monstre froid qui s'appelle l'État. Alors parfois il n'est pas très bien géré cet argent, parfois il y a au niveau des frais de gestion, tout ça, bon, on pourrait faire mieux. Ok, je connais, mais il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais c'est de l'argent après qui va être redistribué à ceux qui en ont besoin pour construire des hôpitaux, payer les médecins de l'hôpital public, les instituteurs, enfin les professeurs. Voilà. Je sais qu'une partie de cet argent qui n'est pas forcément très bien utilisé, de la même manière qu'un ménage n'utilise pas toujours très bien son argent, une entreprise non plus. Bon, bah, l'État, c'est pareil, il n'est pas toujours parfait. Mais arrêtez de penser que l'État, c'est juste l'argent, c'est un truc qui vous pique votre argent et puis basta, quoi. C'est à la base, c'est l'argent qui va servir au bien commun, quoi. En tout cas, on l'espère, vous voyez. Oui, à l'armée aussi, bien sûr. Après, si vous voulez pas vivre dans ce cadre-là, qui est le cadre dans lequel on est par notre naissance, en fait, hein, puisque vous avez de la chance quand même d'être né en France et pas dans un pays en guerre, en crise... et avec des systèmes de protection des citoyens sur un plan de santé ou sociétaux quand même beaucoup moins sympa. Si vraiment c'est insupportable pour vous, bah je sais pas moi, aller sur une île déserte où on va vous demander rien du tout et mais où la société vous donnera rien du tout non plus, hein. Ni éducation nationale, ni système de santé collectif, ni rien en fait. Voilà. Faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Pour un moment, faut être un peu raisonnable, quoi. Hein. Bon, allez, on n'a pas le temps de se... À chaque fois, on part sous les débats de fou, quand même. Regardez, je vous montre ce qui reste. On a 15 minutes pour le faire, ça n'a aucun sens. Je voulais vous parler... Je pense qu'on va garder des trucs pour demain. J'ai plein de trucs sur l'IA, voilà. Sur les nouveautés en matière d'IA. Alors, je vous en parle pas tous les jours parce que sinon c'est usant, mais là il y a vraiment un truc intéressant, notamment avec la sortie d'un film. On va aller au moins à ça. Ouais, ça. Et j'ai un gros dossier dans Le Monde sur l'importance du sport dans la santé, et ça je pense que je vais vous mettre de côté. Ok ? D'accord ? Non, demain je suis pas là. Bon, bah pour vendredi, parce que demain je suis à Montélimar. Et je m'en excuse. C'est parti pour l'IA. Alors j'ai trois articles vraiment intéressants sur les nouveautés en termes d'IA. Dialogue. C'est la une de la Croix. Le concepteur de ChatGPT a déclaré avoir doté donc le fameux robot conversationnel de la parole et de la vision. La direction du marketing d'OpenAI, donc l'entreprise américaine qui commercialise ChatGPT, vient de frapper un grand coup. Dans un communiqué qui a été relayé aux quatre coins de la planète, elle annonce que son robot conversationnel est désormais doté de la vision et de la parole. Les premiers exemples apparaissent comme toujours à première vue anodin, les utilisateurs pourront prendre la photo d'un monument par exemple, ou avoir une conversation, et avoir une conversation avec ChatGPT sur l'histoire du monument, ou encore lui montrer ce qu'il y a dans le frigo pour que ChatGPT lui propose une recette. Les seconds font eux froid dans le dos, hein, les autres exemples. Le logiciel par exemple pourra aider les enfants à faire leurs devoirs, par exemple en prenant une photo d'un problème de maths, et même leur raconter une histoire avant qu'ils s'endorment. C'est là où la croix commence un petit peu à s'inquiéter. Ibès, merci pour le troisième mois d'abonnement. On se met à redouter la prochaine annonce des communicants d'OpenAI. Le logiciel pourra-t-il bientôt faire des remontrances aux enfants, simuler le bruit du baiser le soir et les rassurer après un cauchemar nocturne? Ces communiqués successifs jouent sur la nouveauté, la fascination que suscite en nous chacune de ces innovations technologiques. À chaque fois, l'anthropomorphisme joue à plein régime pour brouiller un peu plus la frontière entre la machine et l'être humain. Un risque contre lequel ne cesse d'alerter le Comité national pilote d'éthique numérique en rappelant que même informé qu'elle parle avec une machine, une personne finit par engager un dialogue émotionnel. Quel sera l'impact sur un enfant de ce type d'échange utilisant l'empathie et en réalité tout entier fondé sur des algorithmes et des statistiques? Une parole demande la croix, et je trouve que c'est une bonne question. Une parole sans raisonnement, sans intention, est-elle encore une parole? Vous voyez, on se moque parfois de ceux qui s'inquiètent des progrès de la science, ici des IA, mais je trouve que la question est quand même intéressante. Donc, première interrogation déjà sur les derniers progrès de ChatGPT. Je suis très très content de recevoir Defend Intelligence, le streamer ingénieur qui justement s'est fait un petit ban def récemment, mais qui a été levé récemment sur des questions d'IA justement, qui sera vendredi dans l'hebdo Étienne. Alors, sur l'IA toujours, les progrès en matière de doublage automatisé, et là, menace directe pour l'emploi de certains. Dans les prochains jours, les utilisateurs français de Spotify pourront écouter dans leur langue un entretien de 2h30, originellement enregistré en anglais, entre le podcasteur américain Lex Friedman et l'auteur israélien à succès Yuval Noah Harari. Mais contre toute attente, aucun acteur de doublage n'est impliqué dans cette opération, puisque c'est une IA qui s'est chargée de cette tâche avec des voix imitant le timbre et l'élocution des deux hommes. Le podcast a donc été doublé automatiquement en français, en espagnol et en allemand, avec des timbres de voix qui imitent la voix des deux personnes. C'est juste insane. Il y a nos systèmes, comment vas-tu? Merci pour le 14e mois. Ce tour de force provient d'un nouvel outil de Spotify qui s'appelle Voice Translation, créé en collaboration avec OpenAI, la boîte qui fait ChatGPT, qui est désormais capable de générer une imitation de voix à partir d'un enregistrement audio de quelques secondes et lui faire dire n'importe quel texte. On a eu des exemples récemment qui ont été postés sur les réseaux sociaux. Spotify va donc tester ce doublage par l'IA auprès de 6 podcasteurs américains. En reproduisant la voix du créateur, Voice Translation permet aux auditeurs du monde entier de découvrir des nouveaux programmes d'une manière plus naturelle que jamais. Et ce, pour un coût bien moindre qu'un doublage assuré en studio par des humains, par des comédiens professionnels. Cette technologie est une aubaine pour Spotify, qui a dépensé parfois des centaines de millions de dollars pour s'assurer de l'exclusivité de diffusion de certains podcasts, notamment américains. Mais en raison de la barrière de la langue, eh bien, ces podcasts avaient du mal à apparaître dans le top des écoutes dans des pays comme la France, par exemple. Plus de 80% de la population mondiale ne maîtrise pas l'anglais. Conscient de ce problème, Spotify a donc tenté dès 2020 d'adapter certains de ses programmes en d'autres langues, sauf que c'est long et que c'est coûteux. La plateforme audio ne précise pas qui s'est chargé de traduire les podcasts qui bénéficient de ce doublage automatisé, mais il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une IA, tout comme YouTube qui a annoncé la semaine dernière, à partir de 2024, du déploiement d'un outil qui s'appelle Aloud, A-L-O-U-D, une IA qui se charge du processus de transcription, de traduction, de doublage de leurs vidéos avec une voix proche des gens qui parlent. Mieux encore, YouTube permet une synchronisation du mouvement des lèvres pour un résultat à l'écran des plus naturels. On a vu des images récemment, on les a regardées ensemble. YouTube propose depuis 2 ans aux créateurs de publier leurs vidéos avec plusieurs pistes audio pour leur donner un avantage dans les recommandations du contenu du service. Les stars de la plateforme se sont utilisées de ça pour démultiplie les audiences à l'international, comme MrBeast par exemple. qui est devenu un des créateurs les plus regardés en France grâce au doublage de ses créations en français et en 10 autres langues. Voilà. Le jeune homme, donc Mr Beast, paye des sociétés professionnelles de doublage pour assurer ce travail. Donc ça lui coûte beaucoup d'argent, mais ça lui en rapporte beaucoup aussi. Mais bien peu de créateurs ont les moyens d'engager de tels frais. D'où l'opportunité présentée par ce doublage gratuit par l'IA. YouTube, comme les créateurs, s'y retrouvent, puisque la démultiplication de l'audience signifie davantage d'exposition publicitaire. Des sous, des sous, des sous. Cet article des Échos, ils sont bien sur la tech, nous apprend par ailleurs que en France, Brut, le média Brut, c'est le rhinocéros, va tester cette IA pour étendre l'audience de certaines de ses vidéos. Ces technologies, dont l'efficacité ne devrait qu'augmenter, ont de quoi donner des sueurs froides aux professionnels de la voix. Si le cinéma ne devrait pas de sitôt se passer des doubleurs professionnels, qu'en sera-t-il de la publicité digitale, des plateformes vidéo, du secteur de la formation ? Plus personne devant le micro. Voilà ce qui pourrait arriver aux comédiens de la voix off, aux comédiens du doublage, ainsi qu'aux acteurs des autres secteurs si l'IA n'est pas encadrée par des lois. C'est ce que disait en mai dernier l'acteur français Jean Dujardin. Voilà. Intéressant, hein ? Il nous reste 10 minutes, il faut que je vous parle de cinéma. Alors, Lindori dit, hein, c'est, comme le dit Amixem dans Popcorn, c'est vraiment dommage vu les doubleurs de qualité qu'on a en France, c'est un beau métier, il ne faudrait pas le laisser mourir. Les hebdos sont sur Spotify, ça y est, c'est fait, Joe s'en est occupé. Je vous lis sur le sujet. Voilà, M6 Spooks écrit, c'est un outil très puissant mais qui a besoin de régularisation, régulation je dirais même. Tout a avancé si vite qu'il y a beaucoup de flou juridique et éthique. En mon humble opinion, je pense que tu as raison. Bon, je suis très content de recevoir Defend Intelligence, le créateur de contenu, le streamer et l'ingénieur, vendredi dans l'M2TM, parce que du coup, on va parler de tout ça. Merci The Voyageur pour les bits. Merci Nesta pour le soutien, qui me demande mon avis sur le sujet. Est-ce que je suis plutôt hype ou ça te fait peur ? Moi, je pense qu'on ne peut pas lutter contre le progrès, jamais. En revanche, qu'on peut l'accompagner, qu'on peut le réguler. Voilà. Comme l'Europe tente de le faire, par exemple, sur les contenus Internet en ce moment. Avec le Digital Act, DSA, tout ça. Donc voilà, stopper, arrêter, empêcher les progrès technologiques juste impossibles. En revanche, une société donnée, un pays, parfois un ensemble de pays comme l'Union européenne, ont le pouvoir et l'obligation d'encadrer, d'accompagner, de réguler un progrès technique si à un moment il peut avoir des effets délétères sur la société, sur les gens, quoi. Et là, ça devient de la politique. La politique, ça n'est pas un gros mot. La politique, c'est s'occuper des affaires de la société. Voilà. De réguler les rapports entre les membres de cette société et de protéger cette société. C'est ça, la politique, au sens noble du terme. Ah, c'est intéressant ce que tu... Ouais, c'est intéressant ce que dit Ribon TV, ouais. Sur la maladie de Charcot. Les amis, pour des raisons pro, j'ai promis de donner une interview à 11h30 là. Et après j'enchaîne, j'ai une réunion avec nos amis de l'Institut National de l'Audiovisuel qui sont partenaires de l'Hebdo Etienne depuis vendredi dernier. Et puis j'ai deux rendez-vous secrets pour parler de Twitch cet après-midi à 16h30 et 17h. Je vous lâche dans quelques minutes. Mais à propos de l'IA, je voulais parler aussi d'une sortie ciné. On va aller se regarder une bande-annonce que j'ai pas vue encore. Puisque tout le monde est unanime ce matin, Le Parisien et Libération notamment. Il y a un film qui arrive, on est mercredi, aujourd'hui aussi débat, qui s'appelle The Creator. qui est un film de science-fiction qui est salué. Le Parisien nous dit enfin du neuf au rayon science-fiction. Vous avez également Libération qui consacre deux pleines pages à ce film. Qu'on doit à Gareth Edwards, voilà, Gareth Edwards qui s'est fait remarquer pour Rogue One, Star Wars Story, qui est un des Star Wars qui a été salué par la critique et par le public. Et donc des années après son dernier film, il revient avec ce film, blockbuster, qui s'intéresse aux problèmes brûlants de l'intelligence artificielle. Ben, certains... le spécialiste va aller le voir dans deux ans. Pour le coup, les deux articles dans Parisien et Libé m'ont vraiment donné envie d'aller voir ce film. Je vous en lis quelques mots et puis on va aller voir la bande-annonce. Alors l'histoire, elle me hype à mort quoi. Alors qu'une explosion nucléaire a rayé Los Angeles de la carte, les États occidentaux ont dans un futur proche lancé la chasse aux IA accusés d'avoir provoqué le désastre. Ça nous rappelle un petit peu Terminator. Fini donc les robots à visage humain qui servaient partout de main d'œuvre bon marché. Ils sont désormais ces IA et ces robots traqués, annihilé, ça rappelle aussi surtout comment s'appelait ce super film. On a eu deux. Harrison Ford. Blade Runner. Merci. Oh, le premier, c'est juste masterclass, classique. Regardez Blade Runner. Magnifique. Beau, poétique, tout. Un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Donc, les robots, les IA sont traqués, annihilés, sauf en Asie. Où il cohabite pacifiquement avec les habitants, aux grandes dames des États-Unis qui mènent sur place une guerre impitoyable aidée par une forteresse volante au colossal pouvoir de destruction. Joshua, agent des forces spéciales américaines, vit justement depuis des années en Asie et s'est infiltré dans l'entourage du créateur, personnage mythique qui vient en aide aux IA. 7 ans après Rogue One, souvent considéré comme le meilleur épisode de Star Wars, livré après la trilogie originelle, le réalisateur britannique, donc c'est lui, Gareth Edwards, revient avec un grand, très grand film de science-fiction, spectacle total de l'ampleur d'un Blade Runner ou d'un Dune, bourré d'action, d'effets spéciaux et de scènes dantesques. Voilà. Donc, pour résumer, le Parisien dit que c'est top, Libération a adoré. Nous, on va aller se voir une petite bande-annonce. Ah, YouTube. Je vais essayer de vous trouver la BA et on va regarder. Alors, je ne l'ai pas regardé encore, c'est une surprise. Alors, voilà. Petit réveil qui me dit que je dois vous laisser. On accélère Samuel Etienne. De Creator. Bande-annonce VF. J'aime bien les VO. Hein. J'aime bien les VO. Comment ça, de créateur full movie? Comment ça? Comment ça, de créateur 2023 full movie, c'est-à-dire? Il y a le film là? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Internet! Incroyable. Bon, je l'ai en français là. C'est parti. Touk. Voilà. On va comme ça. On regarde?
C'est quoi le paradis?
Un endroit paisible dans le ciel.
Toi, tu vas y aller au paradis?
Non. Il n'y a que les personnes gentilles qui y vont.
Alors, on est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne. Ils viennent me chercher.
Disons que je suis ton garde du corps. Je vais te sortir de là.
Thank you. sur elle.
Je te promets. Mets ta ceinture.
Ce qui est étonnant, c'est que le film est tourné en décor réel. Voilà. Alors, la BA est sympa en vrai, hein. Moi, me donne plutôt envie. Libération dit que la bande-annonce, à aucun moment, ne vous donne vraiment l'image de ce que va être le film. Voilà. Que le film est vraiment assez exceptionnel, nous dit Libé, et que la bande-annonce n'arrive pas à le rendre. Je crois Libé sur parole, le Parisien a l'air aussi d'accord. Voilà, je vous lis cet extrait de Libé. The Creator est un film de science-fiction d'un nouveau genre tourné en décor principalement naturel, dont la pléthore d'effets spéciaux est plantée dans l'image plutôt que le contraire. Une originalité qui ne sautait pas aux yeux en découvrant sa bande-annonce, d'où ça et nombre d'éléments vus et revus dans le cinéma des science-fiction de ces 40 dernières années. C'est vrai que quand on est un peu cinéphile, on se dit qu'on a déjà vu tout ça. Mais Libération nous dit que le film est bien plus... Ah pardon, je ne vous ai pas mis la scène. Bien plus riche que ça. The Creator est un bon film de Libé, un film de science-fiction adulte relativement complexe, empesé de passages obligés et d'un dernier tiers un peu trop épais, mais zébré de visions inouïes et de scènes proprement étonnantes. Libération a aimé, Le Parisien a aimé. Si j'avais du temps dans cette journée de fou que j'ai aujourd'hui avec un milliard de rendez-vous, j'irais le voir. 11h24, vous savez quoi, on a été rapide, on a bien bossé. Il y a un seul sujet dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce dossier passionnant dans le monde sur le sport médicament, l'activité physique qu'il faut faire pour se faire du bien, pour faire qu'on ira moins chez le médecin, qu'on prendra moins de médecins pour guérir plus vite quand on est malade. Le dossier est passionnant, je vous le mets de côté, je vous le lirai vendredi matin, puisque demain matin je ne peux pas streamer. Et là je suis en déplacement pour un festival de cinéma à destination des plus jeunes à Montélimar dans la Drôme. Comme on a été rapide, eh bien on a le temps d'aller se faire un petit horoscope. Le premier, la première dans le chat qui me donne là maintenant tout de suite son signe astrologique, je lui lis son horoscope. Et après je vous abandonne, j'ai une ITV à donner. Ah, c'est là. Qui a gagné? Moi j'ai Bélier. Encore Bélier? Bon, je vais dire Poisson aussi. Hein. La zone aéro a gagné avec Bélier. Les Béliers, vous gagnez tous les jours, c'est fatigant. Je ne sais pas pourquoi. Et Aorita, je vais lire Poisson aussi parce que c'est fou. Les Béliers, vous êtes rapides. Tassopac, merci du 11e mois d'abonnement. Bélier, bon. Après, je suis content parce que c'est le signe de mon épouse. Avec des bons yeux, vous pouvez lire Taureau, Gémeaux et Cancer aussi. Bélier, votre écoute et votre tolérance seront vos meilleures cartes. Alors moi, j'ai la chance d'être avec une épouse qui a une capacité d'écoute et de tolérance assez surréaliste. Réussite, aujourd'hui, tout se déroulera selon vos plans. Vous serez très satisfait. Je suis content pour Hélène. Forme, vous aurez tendance à trop en faire. Hélène, c'est une machine. Poisson, j'ai promis Poisson. Hop, ce qui permettra également... Hop, à Verseau, Capricorne et Sagittaire de lire votre horoscope. Poisson, cœur, vous vivrez une journée sans histoire dans le secteur affectif, tout va bien, sauf s'il ne se passe rien, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'histoire, donc bref, ça ne bouge pas trop. Réussite, vous ne manquerez pas d'audace et on appréciera vos idées originales. Forme, baisse de morale, voilà. On n'y croit pas, ça n'est pas scientifique, ça nous fait marrer. Les amis, je suis désolé d'avoir dû être aussi rapide ce matin parce qu'on fait un stream de 2h13 qui est très très court. Voilà, j'ai lancé mon stream un peu trop tard, c'est de ma faute. Il y avait trop d'articles intéressants ce matin dans la presse, donc j'avais une bonne demi-heure de retard, donc c'est de ma faute. Donc on a fait un petit speedrun de l'info. Voilà. Je suis content et frustré en même temps parce que monsieur Kayuya, si vous nous écoutez, je vous fais une dédicace. Voilà, c'est demandé par quelqu'un gentiment dans le chat. Et vous faites un des plus beaux métiers au monde puisque vous êtes enseignant manifestement. Donc un peu frustré parce que j'ai plein d'infos intéressantes, mais en vrai sur chacun des sujets qu'on a évoqués, l'héritage, la fiscalité, l'IA, la question de la violence dans la pornographie, la question du harcèlement scolaire, la question de la vision de l'écologie par le président Macron. On aurait pu à chaque fois en parler 3 heures, c'est très frustrant. Mais au moins vous avez les infos, vous allez pouvoir éventuellement faire des recherches. Faites-moi des propositions maintenant dans le chat et on fait un raid. Je vous mets 2 minutes, on n'a pas fait de pause café aujourd'hui. Je vous mets 2 minutes de musique Ok, avec ma petite musique que j'aime bien en ce moment là. Et on fait un raid. Je lis vos propositions et dans 2 minutes, on raid. Un petit peu de musique pour les abonnés. On se retrouve après 2 minutes. Je vous dis à tout de suite, je vais vous mettre ça. C'est ma petite musique du moment là. Un petit peu de douceur. A tout de suite pour le raid. Bande de belles personnes. On va où alors ?
Of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Above these crowds, stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground.
On reste dans 20 secondes.
Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound.
C'est affreux. Ah, j'hésite entre deux raids. Vous m'avez fait que des propales intéressantes. Ah, je sais pas. C'est chaud en fait. Très compliqué. Bon, écoutez, bon, j'avais une streameuse là dont le contenu me semblait super intéressant, qui était utile, futile, justement, qui parlait d'amour, de sexualité. Ça semblait hyper pertinent par rapport au sujet qu'on a évoqué hier. Mais je vois, on me dit qu'il y a Defend Intelligence, donc le streamer et ingénieur, si je dis pas de bêtises, qui est en live aussi actuellement. Et on le reçoit justement vendredi. Donc du coup, je trouve ça assez pertinent. Donc les amis, vous allez voir Defend Intelligence. Notez quand même cette note, le nom de cette chaîne, Utile Futile, qui a l'air très très bien aussi. Le raid part dans quelques secondes. Merci pour ce matin, pardon pour ce stream qui était plus court que ce que j'aurais souhaité. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Et je vous dis, pas demain, je suis pris toute la journée, je vais à Montélimar. Mais on se retrouve vendredi matin, vendredi soir pour l'hebdo Étienne. Et dimanche soir pour Ça me plaît, bien sûr. Merci pour tout. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. À très vite. C'est parti.